Bonjour tout le monde et bienvenue à un tout nouvel épisode de Horreur 360. Épisode 47 aujourd'hui, alors que nous allons couvrir le très bizarre Tetsuo The Iron Man. Et là, ça a été tellement long avant que je vous donne l'épisode sur From Dusk Till Dawn que je me suis dit que je vous ferais une petite faveur en vous donnant cet épisode-ci plus rapidement, soit environ une semaine après l'épisode 46. Pour commencer l'épisode aujourd'hui, j'ai une petite annonce à vous faire qui devrait en intéresser plusieurs parmi vous. Comme vous le savez, j'aime ça vous faire participer via mes divers segments depuis le début du podcast. Vous avez donc maintenant la chance de vous faire entendre aussi souvent que vous le voudrez, puisque j'ai créé un nouveau groupe Facebook qui s'appelle Horreur 360, groupe officiel. Et sur ce groupe, vous allez pouvoir poster tout ce que vous voulez en lien avec l'horreur. Il n'y a aucune limite. Que tu veuilles parler de films d'horreur pour enfants ou que tu veuilles parler de snuff movie, t'es le bienvenu de le faire sur le groupe, en autant que tout ça se fasse dans le respect. Donc, si t'as envie de partager une bande-annonce, de parler de ton réalisateur préféré ou encore de partager tes plus récentes écoutes, je t'invite fortement à venir joindre le groupe pour qu'on puisse tous échanger ensemble. Je vous regarde aller, vous êtes des astis cinéphiles, puis on est vraiment une belle communauté. Et là, avant qu'on passe au confessionnal, je veux vous avertir que l'épisode d'aujourd'hui est vraiment dur à suivre si t'as pas vu le film. On y est allé d'une conversation libre au lieu d'un pas à pas comme vous êtes habitué. Et je vous rassure par contre, si vous n'avez pas vu le film, j'ai vraiment essayé de construire l'épisode dans le but de vous convaincre de regarder le film. Mais si t'es curieux puis que t'écoutes l'épisode juste pour savoir si t'aimerais le film ou non, il se peut que tu sois un peu perdu en nous écoutant. J'en profite pour vous rappeler que le film est d'une durée de 67 minutes seulement et qu'il est disponible sur Shudder. C'est toute une ride et c'est du cinéma expérimental, donc prépare-toi à vivre quelque chose d'unique si tu t'essayes. Maintenant que ça c'est dit, j'ai une confession à vous faire et on s'en va là à l'instant. Bienvenue dans le confessionnal. Cette semaine, je dois vous avouer que j'ai regardé pour la première fois Suspiria, sorti en 1977 et réalisé par Dario Argento. Il s'agit de mon premier Argento à vie, et je me suis dit pourquoi ne pas commencer avec celui qui polarise tant. Parce que de ce que j'entends, soit Suspiria est un chef-d'œuvre, soit c'est long et plate. Et là, dans quel camp je me range, je vous dis ça tout de suite. Et bien, à ma grande surprise, Suspiria est un coup de cœur pour moi. Je m'étais fait trop de mauvaises idées sur le film parce que je me disais qu'un film de 1977 qui se déroule dans une académie de danse avait rien d'attirant pour mes goûts. Eh bien, la fameuse expression « laisser la chance aux coureurs » est de mise ici. Non seulement le film est bon, mais le film est beau. On parle d'un esthétisme quasi parfait ici, là. Comme j'ai dit, c'était mon premier Argento et certainement pas mon dernier. De la façon dont il va jouer avec les couleurs et les ambiances, c'est du génie. On m'avait dit que l'acting était peut-être le point faible du film. Je suis pas tant d'accord parce que je me suis attaché rapidement au personnage principal et j'ai trouvé que les antagonistes étaient convaincants aussi. La seule qui laisse à désirer, c'est le personnage de Sarah qui joue très mal en plus de prendre la décision la plus stupide du film qui l'amènera vers sa mort. Ceux qui ont vu le film comprendront. J'ai été captivé par la quête de la personnage principale, tout son développement est juste et on veut qu'elle réussisse ce qu'elle a commencé. Et que dire de la violence des kills dans le film? Dans les 5 premières minutes, on a droit à 2 kills complètement gore. Je m'attendais à tout sauf à de la violence dans ce film-là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours cru que c'était un slow burn qui tournait plus autour de l'horreur psychologique. En tout cas, grave erreur de ma part d'avoir attendu aussi longtemps avant de lui donner une chance. Le dernier tiers du film est tout simplement à couper le souffle. Honnêtement, chapeau Suspiria, tu m'as complètement surpris. Et c'est pour ça que je vais donner un beau 8 sur 10 à Suspiria. C'est ce qui va conclure le segment du confessionnal pour cette semaine. Je vous envoie dès maintenant vers la conversation que j'ai eue avec mes invités. C'est un épisode où j'ai appris beaucoup de choses, où j'ai ouvert mon esprit et je conseille à tous de faire l'exercice une fois de temps en temps. Écouter un film qui sort du moule conventionnel, ça fait grandir. Donc, là-dessus, je vous laisse écouter ça. Bon podcast, tout le monde. Cette semaine sur le podcast, je suis très content de recevoir deux gars de Horreur Québec, en commençant avec le rédacteur en chef Marc Boisclair, qui effectue un deuxième passage sur le podcast. J'ai aussi le plaisir d'accueillir pour la première fois Mathieu Côté. Messieurs, comment allez-vous?
Ça va super bien.
Très bien, merci.
Good, ben écoute, je suis vraiment content que vous soyez là. Merci d'être ici ce soir pour parler du film le plus bizarre que j'ai jamais couvert sur le podcast. Et là, avant toute chose, Mathieu, j'aimerais ça prendre quelques minutes pour que moi et mes auditeurs, on apprenne à te connaître. Ouais. Je dois le dire, on se connaît pas du tout. On a appris à jaser, ça fait 5 minutes hors d'onde. Et moi, dans le fond, je t'ai approché après t'avoir vu faire des entrevues vraiment cool avec divers réalisateurs dans le cadre d'Horreur Québec. Et je te suis aussi sur les réseaux sociaux depuis quelques mois. Je vois que tu publies souvent des critiques de films dans tes stories, puis c'est toujours super pertinent. Et là, je me suis dit que ce serait un très bon fit pour venir, en fait, que tu serais un très bon fit pour venir jaser d'horreur avec moi et Marc. Et là, justement, j'ai 3 questions pour toi. La première est la suivante. Peux-tu nous expliquer ou peux-tu nous dire comment tu es arrivé à joindre l'équipe d'Horreur Québec?
Ouais, absolument. Moi, je suis un grand passionné d'horreur. J'ai tout le temps aimé ça toute ma vie. Puis ça fait une couple d'années que j'ai décidé de prendre ça plus sérieusement, de donner mes critiques cinéma, puis d'essayer de comme on dit en anglais, putting myself out there, de me mettre là dans les médias différents. Puis après une couple de mois, je te dirais, j'ai commencé à contacter certains outlets, mais Horreur Québec, c'est vraiment un que je voulais travailler pour. Puis je les voyais passer, puis j'étais comme, moi, en tant que fanatique d'horreur, c'est sûr que je serais passionné d'écrire pour eux.
Wow, on n'était pas les seuls à qui t'as écrit.
Ben, Marc, je sais que tu niaises, mais il y en avait 2-3, là. Je pense que là, c'est comme le stress d'expliquer ma situation là, qui fait ça. Mais clairement, Horreur Québec, c'est quelque chose que je voulais absolument écrire pour. Puis quand Marc m'a écrit, on a-tu cliqué? Je sais pas, Marc, peut-être que tu m'aimes pas, mais il me semble qu'on a cliqué.
Mais non, je confirme qu'on a cliqué. Puis, c'est pas pour être gentil, là, on dirait que tous les rédacteurs avec qui je travaille sur Horreur Québec, il y a comme un déclic amical qui se fait, qui se crée comme dès le début, qui s'explique pas, qui s'explique sûrement par juste la passion, en fait. Puis Mathieu, t'es un gars super passionné, puis ça paraît, tu sais, comme quand tu t'exprimes, puis quand tu veux faire quelque chose, fait que c'est sûr que ça donne juste le goût de te donner la carte blanche pour faire tes trucs, tu sais.
Ben merci, c'est un gros compliment. Mais Marc, c'est ça, une fois que tu t'es un passionné d'horreur, puis que t'es prêt à te motiver, il va être là, puis il va donner le pouce, puis le push, puis en tout cas, ça a vraiment juste cliqué dès le début, là. Fait que, ouais, c'est de même que je suis embarqué sur l'équipe. Là, on a écrit, puis mon premier review, c'était pour Cocaine Bear. Tout le temps une bonne expérience pour commencer. Un ours sur la cocaïne.
Déchaîné. Ben, très nice. Puis écoute, on s'entend que ça t'a ouvert des grandes portes, là, tu sais. Puis justement, ça va m'amener à ma deuxième question. Peux-tu nous parler de tes différentes expériences d'entrevue que tu as faites jusqu'à maintenant? Parce que, comme tu l'as mentionné, tu sais, si je me trompe pas, tu as interviewé les frères Philippou l'été dernier lors de leur passage à Fantasia sur leur film Talk to Me. Et tout récemment, là, genre la semaine passée, tu as eu la chance de t'entretenir avec Caitlin Cronenberg à propos de la sortie de son film Humane. Je sais pas si je l'ai dit comme faux.
Oui.
Raconte-moi un peu comment ça s'est passé puis comment tu te prépares pour ce genre d'entrevue-là.
Ben écoute, c'est sûr, au début, c'était un gros choc. Là. Tout de suite en partant, ça faisait 2-3 mois que j'étais sur l'équipe. Puis là, Marc, il m'écrit une journée puis comme ça, te tente-tu d'interviewer Ari Aster? Moi, premièrement, j'ai dit, c'est sûr que tu me niaises. C'est ça. J'étais comme, c'est sûr que tu me niaises en ce moment. C'est ma première entrevue. Puis c'est un des réalisateurs que j'avais le plus d'admiration pour. Fait que ça a été un gros, je pense, un stress. Mais en même temps, c'est ça qui a fait qu'après cette entrevue-là, j'étais prêt à faire n'importe quoi. Parce que je pense que c'est le plus gros début que tu peux faire. C'est avec un gros réalisateur de même. Mm-hmm. Puis tu sais, on est au Four Seasons Hotel. Tu montes dans le building. Puis là, t'es tout intimidé par le processus. Mm-hmm. Mais une fois que tu sors de là, t'es comme, bon, ben, OK, je peux faire comme pas n'importe quoi. Mais après ça, tu te sens beaucoup plus confiant quand tu vas approcher d'autres entrevues. Exactement. Ouais. Fait que là, après ça, comme tu dis, les Philippou Brothers, ça s'est super bien passé. Les gars sont super généreux. Sophie Thatcher au mois de mai. Puis là, ça faisait un bout que je n'avais pas fait. Mais la semaine passée, Caitlin Cronenberg, ça a vraiment bien été. On est en train de faire le montage. Ça va sortir peut-être dans les prochains... Peut-être demain, en tout cas. Je sais pas quand ton épisode va sortir, là, mais ça devrait peut-être être en ligne une fois que tu sors ton épisode. Fait que allez voir ça, Caitlin Cronenberg pour Humane. Mais vraiment, moi, de la manière que je me prépare, c'est que je regarde le film, je me pose les questions que le monde a envie d'entendre, puis je vais aussi essayer de créer une connexion avec la personne avec qui que je parle. Parce que je pense que c'est plus important que de poser des questions, c'est qu'au début, tu parles avec quelqu'un, puis t'es assis en one-on-one. Faut pas que tu vois comme une célébrité, faut pas que tu vois comme quelqu'un qui est au-dessus. Faut juste que tu parles avec la personne comme si tu parlais avec un ami, puis moi, c'est de même que j'approche mes entrevues, hein. Puis je suis prêt. À chaque fois, je m'assure d'être prêt. J'ai beaucoup de questions, j'en ai trop, mais je m'assure d'être prêt. Ouais.
C'est, en plus, t'es tout le temps over-préparé, je trouve. Tu passes tellement de temps là-dessus, puis ben, en tout cas, je trouve ça admirable.
Ouais.
Mais c'est un gars qui se prépare très bien, il fait bien ses devoirs.
Ben écoute, j'en doute pas. Puis écoute, Marc, t'as eu la chance d'interviewer, tu sais, on s'en était déjà parlé à mon dernier épisode quand t'es venu, mais t'as interviewé Ty West, qui est mon réalisateur préféré, puis... Ça m'amène à poser une question pour toi, Mathieu. Ça serait qui le réalisateur de rêve avec qui tu aimerais t'entretenir?
Quentin Tarantino.
Ouais.
Oh!
Aucune hésitation, c'est Quentin Tarantino, sans aucun doute.
Ça serait quoi la question que tu y poserais, mettons?
Là, par contre, tu me prends vraiment. Là, ça en est une bonne. Parce que moi, l'affaire avec Quentin Tarantino, c'est que c'est un gars qui mange du cinéma. Puis c'est lui qui m'a donné ma piqûre. Mon gateway drug, ça a été Quentin Tarantino. Fait que je pense que c'est juste que je pourrais parler avec lui pendant des journées de temps. Fait que maintenant, là, tu me dis la question, tu me demandes ça de même. C'est une colle. Mais Tarantino, sans aucun doute, c'est la personne avec qui j'aimerais ça parler. Puis je pense que t'as pas besoin d'en dire beaucoup. Je me souviens, en 2019, j'écoute le film Crawl, le film de crocodile de Alexandre Aja. Complètement adoré le film. Puis je vois quelques mois après que Quentin Tarantino dit que c'est son film préféré de l'année. J'étais comme, Quentin, on peut-tu s'asseoir puis parler de Crawl pendant genre 3 semaines?
Brain connection. Ça.
Exact, exact.
OK, écoute, je vais avoir une dernière question pour toi.
Ouais.
Ça, c'est la question que je pose à tous mes nouveaux invités. Yeah. Ce serait quoi le film le plus épeurant que tu as vu dans ta vie et surtout pourquoi ce film-là t'a autant marqué? Ça peut être un souvenir d'enfance, ça peut être un film que tu as vu récemment. Je veux que tu m'expliques pourquoi ce film-là est terrifiant pour toi.
J'ai même pas besoin d'hésiter, c'est The Shining. C'est aussi simple. Non seulement c'est le film le plus épeurant, mais je pense que c'est mon film numéro un de. N'importe qui, tu me demandes, Letterboxd Top 4 ou whatever, ça va tout être Shining numéro un. Puis la raison que je trouve que c'est le plus épeurant, c'est que là, tu parles de souvenirs d'enfance, puis la première fois que j'ai vu le film, ça jouait à TVA. Puis là, t'es là, puis t'es jeune, puis t'es dans ta petite couverte, puis tu vois la scène qui rentre dans la chambre 237, puis que la fille, elle se transforme en une espèce de madame dégueulasse qui se met à rire. Puis là, je me sentais inconfortable à un point tel que j'étais même plus capable de continuer. Fast forward, 10-15 ans après, je cherche des films, puis je suis rendu à 16 ans, 10 ans plus tard. Je suis là, puis je me cherche des films à checker, puis tu sais, Shining, ça sort sur les listes, puis j'ai peur. Est-ce que je suis prêt? Je veux-tu vraiment réécouter ce film-là qui m'a traumatisé quand je suis jeune? Puis il est 2-3 heures du matin, puis je dis fuck it, je le pars, puis j'écoute le film, puis j'avais ma couverte, puis j'étais de même dans le noir pendant 2-3 heures de temps, complètement perdu dans le monde, mais genre j'avais peur. À un point tel que même quand j'étais rendu à 16 ans, ça me faisait peur. Puis à chaque fois que je le revisite, le film-là, c'est rendu plus un comfort food, dans le sens que le film, je peux vivre dans cet univers-là, dans Overlook Hotel, mais c'est un film qui m'a traumatisé, qui après ça, qui m'a charmé, puis qui c'est pour moi mon film favori, mais aussi un film, je trouve, qui est un des plus épeurants, quand que dans mes yeux d'enfant, mais après dans mes yeux d'adolescent, ça m'a marqué beaucoup comme film.
Ben oui. Ouais. Puis ce film-là, on s'entend qu'il est le fun à revisiter. Là. C'est comme le film aux mille et une théories. Là. Tout le monde a quelque chose, une vision différente de comment, c'est quoi la fin. Puis en tout cas, on n'embarquera pas là-dedans, mais non, je comprends que The Shining, c'est un film qui a marqué ben du monde pour différentes raisons.
Ouais.
OK, Marc, c'est maintenant ton tour.
Oh.
Donc là, les gens le savent, hein, t'es une référence quand vient le temps de parler horreur. Et c'est pour ça que chaque fois que tu viens ici, je te demande de me sortir de ma zone de confort en me suggérant des films méconnus du grand public ou à peu près. On se rappelle que lors de ton dernier passage, tu m'avais proposé le film Amère, qui avait été une super belle surprise pour moi. J'ai un film que j'ai adoré. Et là, cette fois-ci, tu m'as proposé 3 choix de films et j'ai procédé à un vote sur Facebook parce que je voulais que ce soit les auditeurs qui aient le dernier mot sur le film qu'on allait couvrir ce soir. Et là, je rappelle aux auditeurs, les 3 choix étaient Santa Sangre, The Wicker Man et le film d'aujourd'hui, soit Tetsuo The Iron Man. Et là, j'aimerais ça que tu m'expliques et que tu expliques aux auditeurs comment ça s'est déroulé ton processus pour en venir à ces 3 choix-là.
Mais en fait, là, tu m'as ouvert une boîte de Pandore parce que je pense que la première fois que je suis venu, j'avais une limite au niveau des années. Je pouvais pas aller plus haut que, je me souviens
2000.
Plus, les années 2000. Fait que là, tu me permettais d'aller dans toute l'histoire du cinéma. Fait que là, c'était pour moi, c'était... c'était gigantesque, là, tout ce qu'on pouvait aborder. Fait que j'ai été avec des grands classiques. Ben, pour moi, c'est des grands classiques parce que c'est des films que j'ai vus et revus. Et puis, ça fait partie de mes films préférés. Mais je sais aussi que c'est des films qui pourraient faire partie de... Ben, surtout, en fait, Tetsuo, je suis très content que ça ait tombé sur Tetsuo parce que je savais que c'était un film qui allait probablement te déstabiliser. tu sauras nous en parler tantôt. Ouais, fait que j'ai été... tu sais, des films qui sont moins... tu sais, évidemment, un peu plus expérimentaux, un peu plus... tu sais, des trucs que tu trouves pas nécessairement dans le catalogue de Netflix, là, évidemment. Fait que c'est un peu vers ça que je me dirige, là. Des classiques obscurs, mettons, si on peut... si on peut appeler ça comme ça. En plus, ben, Tetsuo, on en reparlera plus tard, là, mais bref, puis je dois t'avouer aussi que j'ai un peu triché parce que la seule règle que tu m'avais donnée, c'est pas de film d'animation. Puis Moi, je suis un maniaque fini de films d'animation. Puis on s'entend que sans animation, sans cinéma d'animation, Tetsuo n'existe pas. Parce que il y a beaucoup de techniques, c'est des techniques rudimentaires d'animation, mais bref, il y a beaucoup d'animation dans le film.
C'est vrai, stop motion.
Fait que j'ai réussi à t'en glisser un néanmoins.
Ouais, mais comme tu dis, on va en reparler, mais je suis content parce que c'était ce que je voulais, c'est ce que j'ai demandé. Je voulais déstabiliser, mission accomplie, mais on va en reparler tantôt. Avant qu'on passe au sujet principal de l'épisode, messieurs, c'est le moment d'aller au segment de la question du jour. On va aller avec le petit music cue, puis je vous explique c'est quoi le segment.
La question du jour!
Bienvenue au segment de la question du jour, segment où je lis les réponses des auditeurs suite à une question que je leur ai posée sur Facebook. Je lis leurs réponses en votre compagnie. Libre à vous de commenter leur réponse. Et ensuite, je vais poser cette même question à vous, messieurs. Et comme à l'habitude, je m'inspire toujours de l'épisode pour formuler ma question. Et cette semaine, la question était la suivante. Quel est le film le plus bizarre que tu as vu que tu aimerais faire découvrir à quelqu'un? Donc là, je vais y aller avec les réponses des auditeurs. Et je vous l'ai dit hors d'onde, là, parce que je vous ai dit la question hors d'onde, mais parmi les commentaires des auditeurs, il n'y a pas un film que j'ai vu là-dedans. Donc, si vous avez envie de commenter sur des films que vous avez vus parmi ces réponses-là, je vous invite à les dire. Donc, on va commencer avec notre bon ami Jasmin Hull, hein, qui est un fervent de la communauté d'horreur au Québec, qui nous dit « The Greasy Strangler ». Il dit « Juste parce qu'il faut le voir pour le croire et tout le monde devrait voir ce film au moins une fois dans leur vie ». Avez-vous vu ça?
Oui.
Moi, j'ai juste vu la bande-annonce, puis c'était assez pour me dire que c'était peut-être trop pour moi, mais Marc, je te passe la poc.
Non, c'est hilarant, c'est un film à voir. Effectivement, je suis sûr qu'il se trouve assez facilement sur les plateformes aussi. Là. Ouais, c'est un bon film aussi à voir en gang, parce que c'est ça.
C'est hilarant.
Oui.
OK. Je m'attends. Ben, tu vois, je savais pas trop à quoi m'attendre, parce qu'il a posté une image avec son commentaire où on voit justement le Greasy Strangler étrangler quelqu'un, les yeux qui sortent de l'orbite. Je sais pas trop à quoi penser quand je regarde ça. Si vous êtes curieux de ce que je dis, les auditeurs, allez voir sur la page Facebook. Là. Tout est là. Bref, on va passer à un autre commentaire. On a Alextérieur Leblanc qui nous dit, qu'en fait, qui parle du film « Begotten ». Il dit « Mais je sais pas si je le recommanderais par contre, c'est plus expérimental qu'autre chose et c'est tout simplement dur à regarder sans détourner le regard. » Est-ce que vous avez vu ça?
Non, moi ça me dit rien. Là, je vois un peu les images, tout, mais je l'ai jamais vu, j'avais jamais pas entendu parler.
Ouais, okay. Je suis curieux.
Bon, écoute. Ouais. Ben, en tout cas, je lance ça dans l'univers. Begotten, si vous êtes curieux, les auditeurs, allez voir ça, allez regarder la bande-annonce, même moi. Puis écoute, on a deux experts ici, puis c'est pas un film qui sonne des cloches. On poursuit ça avec Jonathan Nadeau qui dit « Tous des belles réponses » en parlant des différents commentaires qu'on voit dans la section de mon post. Il dit « En fait, on pourrait nommer tous les films de Jodorowsky, mais j'ai un faible pour El Topo, un western parmi les meilleurs du genre à découvrir avec l'esprit ouvert comme tous les films de Jodorowsky. »
100%.
100%. Ouais, non, 100% d'accord. Puis je dirais aussi, moi, sur ma liste des films plus bizarres, sans Skipped, mais j'avais aussi Holy Mountain, qui fait partie de ses films. Puis c'est pour ça, tu sais, on a parlé de Santa Sangre, qui était un film de Jodorowsky aussi, qu'on aurait probablement peut-être regardé, là, si ça avait été le vote des auditeurs.
Mais tous des
films très spéciaux visuellement, mais autant dans les messages, puis dans tous les petits moments. C'est des films très, très bizarres. Il n'y a pas d'autre manière, je pense, que de les décrire, là.
D'ailleurs, Santa Sangre, c'était une suggestion de Jodorowsky aussi, qui est très, ben, c'est de la poésie. C'est absurde, c'est un univers visuel aussi vraiment déroutant. Fait que oui, tous les. Ben, en particulier, Santa Sangre, El Topo, puis La Montagne Sacrée, The Holy Mountain, c'est comme ces trois films les plus célébrés, mettons. Là. Si vous voulez vous apprendre un peu l'univers de Jodorowsky, c'est trois films que vous devriez voir à mettre sur votre liste.
J'imagine que le plus bizarre des trois, c'est Holy Mountain, ça se peut-tu?
Pour moi, oui.
Ouais. Okay. c'est lui que j'avais mis sur ma liste. Mais tu sais, il y a aussi eu il y a un documentaire qui s'appelle Jodorowsky's Dune. Il y avait une possibilité qu'il aurait peut-être pu réaliser le film de Dune. Fait qu'en tout cas, ça, c'est une autre conversation pour un autre moment, là. Mais c'est un réalisateur qui avait un style visuel très marquant. Fait que tous ses films, ça paraît, là. Il est sur une autre planète, puis c'est des films bizarres, là, très étranges.
Ah, cool. Mais honnêtement, ce réalisateur-là, il m'intéresse vraiment beaucoup. J'ai vu aucun film de sa filmographie. Écoute, c'est peut-être niaiseux ce que je vais dire, mais est-ce qu'il fait encore des films? Est-tu encore d'actualité, ce gars-là?
C'est une bonne question. Je pense qu'il est plus... Je peux me tromper, là, parce que je sais qu'il fait beaucoup de littérature puis de poésie aussi. Je pense qu'il est un peu plus dans ça en ce moment, mais je pense pas qu'il fait des films, non?
Le monsieur est rendu à 95 ans. Là. Fait que je pense qu'il a mérité sa retraite. Il a mérité sa retraite. Là.
Ouais.
Mais c'est un nom que tu vas entendre beaucoup dans les conversations d'horreur.
Ben
là,
oui,
c'est
Jodorowsky.
Pas juste d'horreur.
Ben non, c'est ça. Mais The Holy Mountain, c'est un film que je vais mettre sur ma watchlist là, prochainement. OK, on va poursuivre ça avec Guillaume Capovilla qui dit, justement, il dit « Comme The Holy Mountain et Possession ont déjà été nommés, puis que j'aime trop essayer de topper avec des choses obscures, je vais y aller avec le film The Happiness of the Katakuri, un film de 2001 de Takashi Miike, je pense qu'on dit. Hein?
Ben oui, Il dit
juste la pochette en dit long sur la ride que le film propose. C'est un film qui touche à tellement de genres que c'est impossible d'en assigner un seul au film. Ça reste un des films les plus rafraîchissants que j'ai vu de ma vie. J'ai vraiment aimé ça puis je le recommande fortement. C'est vrai que l'affiche est haute en couleur, c'est multicolore. Marc, as-tu déjà vu ce film-là?
Je suis pas sûr. Il a tellement fait de films, ce gars-là, qu'à un moment donné, puis je suis pas un expert de son cinéma, fait qu'à un moment donné, ça se mélange un peu dans ma tête, mais je pense que celui-là, je l'ai pas vu.
OK. Ben écoute, ça me dit vraiment « sweet fuck out », là, genre. Fait que,
sur la même page que toi, Marc, mais en même temps, moi, quand tu me parles de ce réalisateur-là, la première chose qui me vient en tête, c'est l'audition. L'audition, ça, c'est une chose qui m'a défoncé le cerveau complètement. Oui, j'ai pas d'autre manière de le dire. C'est ça.
C'est-tu lui aussi qui fait Itchy the Killer, ça se peut-tu?
Oui.
OK, c'est ça. Parfait.
Ouais. Audition qui est maintenant disponible sur Tubi gratuitement, ça vaut la peine d'aller voir ça.
Dave Tubi.
Très nice. Mais oui, certain. OK, on va en lire deux derniers, puis après ça, on va poursuivre dans l'épisode. On a Ariane Bellil qui propose le film The Skin I Live In, entre parenthèses, La Piel qui est Habito, de Pedro Almodovar, horreur psychologique et physique, un film extra sous-estimé. Plus what the fuck que bizarre, sinon mon choix serait aller vers Osu, qui est, je pense, House. Là.
Oui, il était sur ma liste. Osu, il était sur ma liste.
The Skin I Live In, avez-vous vu ça?
Oui, c'est excellent. C'est un film à voir. Je dirais pas bizarre, parce que c'est comme... je veux pas dire non plus conventionnel, là. C'est super bien réalisé, mais c'est un film...
Est-ce que c'est
récent? C'est quand même assez récent.
2010, 2011, 2012.
Ouais, quelque chose comme ça.
OK.
De quoi de même?
Excellent film. Antonio Banderas avec... merde, là, j'oublie. Là, comme ça. Mais ouais, regardez ce film-là. Si vous êtes fan de thriller un peu... un mystère à résoudre là-dedans. Puis ouais, c'est excellent.
Je pense que si le monde qui ont aimé Ex Machina aimerait beaucoup ce film-là, The Skin I Live Under. En tout cas, c'est un peu de même que je le vois, là, mais c'est un très, très bon film. Mais je te dirais pas que c'est les films les plus bizarres que j'ai vus de ma vie, mais c'est un très, très bon film que je recommande aussi.
Ouais, ben, pour mentionner dans son commentaire, elle dit plus what the fuck que bizarre.
J'imagine que c'est
plus dans ce sens-là qu'elle veut le dire. Mais bon, vous me l'avez vendu, honnêtement. C'est un film que j'ajoute à ma watchlist à l'instant. OK. J'y vais avec un dernier, en fait. Je vais y aller avec André Pereira qui dit « Je suis sûr que House va sortir dans les commentaires, alors je te conseille Possession de Andrei Zulowski. Bonne chance pour la prononciation, effectivement, je ne sais pas si je l'ai dit comme faux. C'est un film qu'il faut tenter d'interpréter pour l'apprécier, mais il y a quand même des scènes mémorables dont l'une se passe dans un métro. » Encore une fois, yes. Je n'ai pas vu ça.
Oh, ben Alec, oublie tout ce qu'on a dit aujourd'hui, puis mets Possession sur le top de ta liste. Moi, c'est ça que je dirais. Mais pour vrai, c'est pas autant que c'est what the fuck, mais je pense que c'est un essentiel du cinéma en termes de performance, en termes de thématique. C'est un film qui te rentre, it gets under your skin, ça te rentre sous la peau. C'est un film que j'ai adoré quand j'ai checké pour la première fois. À chaque mois d'octobre, j'aime ça faire des marathons d'horreur, puis j'essaie d'écouter un film d'horreur à chaque jour. Puis des films d'horreur que j'ai jamais vus, puis je suis embarqué là-dedans. Puis le lendemain, je me suis réveillé, j'étais pas bien. Là. C'est à quel point c'est un film qui me dérange. C'est dérangeant, mais ça utilise beaucoup de sphères de l'horreur, autant psychologique qu'en termes d'effets spéciaux, puis tout ça. Complètement recommandé, là, oui. Là, en Possession, là, ouais. Je dirais que c'est le must. Ouais.
OK, ben tu vois, ça c'est un film que j'ai souvent entendu parler, par contre. C'est juste, c'est ça. J'ai jamais vraiment donné sa chance, mais encore une fois, vous me le vendez bien. Donc, mon Letterboxd va être garni ce soir après l'épisode. Bon, écoutez, j'ai lu la réponse des auditeurs. Ça serait maintenant votre tour de répondre. Je ne sais pas si vous avez pensé à un film. Je sais que là, on a comme éliminé des films sur ta liste, Mathieu. Mais écoute, puisque tu avais l'air un peu plus indécis, je vais y aller avec Marc. Ce serait quoi, toi, le film le plus bizarre que tu as vu, que tu aimerais faire découvrir à quelqu'un?
Écoute, étant donné que le mien, ça aurait été sûrement The Holy Mountain, qui a été déjà nommé, je vais t'en donner un autre. Qui s'appelle La Casa Lobo de Wolf House en traduction anglaise. Je vois la face de Mathieu, il est comme content. Ce film-là, c'est un film d'animation. Si jamais, je lance ça dans les airs. Si quelqu'un veut faire un podcast un jour là-dessus, je fais un wink aussi à Alec. Laisse-moi faire ce film-là qui est magistral, qui se décrit pas vraiment, qui se vit plus, qui se décrit, c'est un film hallucinant qui me hante depuis que je l'ai vu. Ouais, faites juste aller voir la bande-annonce, La Casa Lobo, puis vous allez tout comprendre.
Ah ouais, très cool, très très cool. OK, parfait. Mathieu, de ton côté, ça serait quoi le tien?
Ben écoute, les deux premiers que j'avais, c'était Holy Mountain puis House, qui ont été nommés, fait qu'on va les rayer de la liste. Sinon, il y a un autre que j'avais bien aimé, puis qui fait pas l'unanimité, c'est Mother de Darren Aronofsky. Mais mettons que je reste dans Darren Aronofsky, je vais nommer Pi. Puis la raison que je le nomme, c'est que je vais en parler un peu aujourd'hui dans la discussion qu'on va avoir avec Tetsuo. Fait que je vais l'idée ça de cette façon-là, mais en disant Pi, le chiffre Pi, de Darren Aronofsky.
Qui a été réédité cette année. T'as-tu été le voir en salle? Revoir en salle?
Non, je l'ai pas. Okay. J'ai pas eu de la chance. Pas à Sherbrooke, malheureusement. Dans mon trou, on n'a pas ça.
Bref, excellent film.
Ben, j'ai même jamais entendu parler de ce film. Ben, aucune de vos suggestions, là, c'est sans surprise. Là. Mais encore une fois, là, c'est sûr, j'ai déjà oublié les titres, mais durant mon montage, je garnis ma watchlist Letterboxd for sure. C'est sûr, sûr, sûr. OK, messieurs, merci d'avoir joué le jeu. Maintenant, on va passer à nos appréciations de Tetsuo. Je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce qu'on en a pensé. Et là, Marc, puisque c'est ton choix, j'aimerais que tu me parles de ton appréciation du film. Je me souviens que tu as dit dans notre conversation Messenger que tu avais 3000 choses à dire sur ce film-là. Hey, on va s'en garder un peu pour notre discussion dans quelques minutes, mais en général, qu'est-ce qui t'accroche de ce film-là?
En fait, là, c'est tout l'aspect crafting, conception. Tout de ce film-là a été conçu avec les moyens du bord, avec une poignée de personnes. Même l'équipe technique a changé au fil du tournage. Je pense que c'est un tournage qui a pris comme 18 mois à peu près. Puis c'est le réalisateur qui a tout fait avec une poignée de personnes. Puis moi, ça m'impressionne tellement le niveau, le génie en fait, le génie créatif derrière ce film-là, visuellement, premièrement, puis techniquement aussi, parce qu'il y a beaucoup, il y a énormément de montage dans ce film-là. C'est un travail de fou un peu, là. D'ailleurs, quand on lit un peu des entrevues avec le réalisateur à ce sujet-là, il est devenu un peu cinglé après le montage de ce film-là, parce que tu sais, imaginez, après avoir vu ce film-là, vous savez, les dernières scènes où tout est un peu en accéléré, il y a vraiment du montage. Puis, toute la trame sonore est faite en post-production. Donc, tous ces bruits-là, assourdissants, puis... T'sais, nous, on l'écoute pendant une heure, là, puis c'est 1h07 le film, quelque chose comme ça.
Ouais.
Ouais.
Puis on a quasiment mal à la tête à la fin parce que, mais imaginez monter ça pendant des mois là, avec les bruits, là, tétank, tétank. Puis, et, écoute, c'est une expérience viscérale.
Ah, écoute, totalement, entièrement d'accord. Oui, j'en sens dans tout ce que tu dis, c'est plus le film en général. J'ai hâte qu'on le décortique parce que c'est ça, c'est un film à interprétation, on s'entend, là, il y a. Aujourd'hui, j'ai écouté un podcast sur le film, puis en écoutant la conversation, je me suis dit « Oh my God, mais je suis tombé imbécile, j'ai jamais comme même pensé à ça ». Moi, là, c'était comme un amas d'images, puis avec de la musique, puis j'embarque dans la ride, puis j'arrive au bout, puis je t'ai soufflé, puis je suis comme « Chris, qu'est-ce que je viens de voir ?» Mais bref, je vais garder ça pour mon appréciation. Mathieu, peux-tu me dire c'est quoi ton opinion générale sur ce film-là, puis sur les films expérimentaux en général, est-ce que tu en regardes souvent?
Ben, je suis assez ouvert à ce niveau-là, puis j'aime ça quand un film va jouer avec la forme. Fait que, autant avec Tetsuo, c'est complètement une attaque au sens. Moi, de la manière que je le décris, j'ai l'impression que je me suis fait frapper par un défibrillateur pendant comme une heure de temps. C'est comme, ça vient te rejoindre autant au niveau du son, puis tout ça, puis tu parlais justement, Marc, de la trame sonore. Puis à m'amener, je trouvais que ça s'en venait un peu agressant. Puis c'est sûr qu'au niveau narratif, c'est pas très clair ce qui se passe. Fait que ça peut perdre un type d'audience. Mais tu sais, quand Alex, tu dis que t'étais perdu dans l'histoire, moi, c'est sûr aussi après, je suis allé voir le plotline. Puis j'étais comme, ah mon Dieu, ah oui, il y a des choses que j'ai pas pick-up. Fait que je vais revenir à une question, Marc, plus tard. Puis je me demande, tu sais, tu dis que t'aimes ça regarder ce film-là plusieurs reprises. Fait que je serais curieux de voir à quel point, quand tu recheck ce film-là, à quel point ça vient te donner plus d'indices. Puis tout ça. Mais oui. Je suis sûr qu'il y a plusieurs tidbits de même qui arrivent, mais c'est très expérimental. Ça joue beaucoup. Ça donne un peu l'impression que tu écoutes une toune de métal, tu sais, comme industriel avec du grunge. Puis tout au niveau de la texture puis de la production, c'est très détaillé. Mais c'est spécial comment que le fait que ça soit filmé en noir et blanc, low budget, c'est ça qui fait que le film fonctionne. Si tu avais fait ça, je pense pas que c'est un film que tu peux refaire. Je pense pas que c'est un film que tu peux remake dans aucune façon.
Il l'a refait, on pourra en reparler.
On en reparlera, mais est-ce que c'était meilleur? C'est ça que je serais curieux de savoir. Je pense pas que tu peux recréer un film aussi mind-blown que ça. Puis le réalisateur, il a l'air d'être comme... J'ai tout lu ce que tu disais, là, Marc, là, à quel point que ça l'a consumé puis qu'il était même plus capable de faire le montage parce qu'il entendait juste tes bruits-là qui sont agressants. Fait que ça vient t'attaquer, ça vient te rejoindre sur des sens. Fait que c'est sûr que je trouve qu'après un bout de temps, le film s'est essoufflé. Mais c'est trop wild pour dire, ça peut pas te laisser indifférent. Non. Puis quand j'ai dit que c'était hilarant, parce qu'il y a des bouts qui sont...
Parce que Mathieu a dit ça dans son retour sur le film, il a dit que c'était hilarant, puis là, j'ai fait « Pardon, c'est ça? Ton... » C'est ce que
on
tu
retiens. On a pas vu le même film.
OK, je vais le dire tout de suite, là, mais moi, quand son pénis devient une drill mécanique puis qu'il perce à travers la table,
oui.
Je peux pas rester là puis boire mon café, faire comme si de rien n'était. Ça m'a fait rire. C'était hilarant.
Ah, j'avoue. OK, parfait. Écoute, honnêtement, de mon côté, à ma première écoute, parce que oui, je l'ai regardé deux fois comme je fais avec tous les films du podcast, je savais même pas ce qui se passait. Genre, tout simplement, là, j'étais comme un chevreuil sur la 15, puis j'étais comme, c'est quoi qui se passe là? À ma deuxième écoute, j'ai pas plus compris. Je suis parti arrêter 3-4 fois en me disant, je sais même pas c'est quoi je regarde, mais avec mes lectures, en écoutant un podcast, là, c'est là que j'ai fait, ah, Chris, ils ont des noms, ces personnages-là. Tu sais, je veux dire, au début, là, j'avais de la misère à différencier qui était qui. Tout se déroule tellement vite, c'est du montage rapide, tellement de cotes. T'es plongé là-dedans avec la musique. Écoute, j'étais complètement perdu. Là, tu sais, je sais bien que c'est un film expérimental, puis je dois pas m'attendre à comprendre quoi que ce soit. T'sais, en fait, faut pas que je cherche à comprendre. Faut que j'embarque dans la ride, puis that's all. Mais c'est ça, c'est que mon cerveau, il est comme pas capable d'assimiler aucune information ou de retenir quoi que ce soit quand j'ai comme aucune histoire à m'accrocher. Fait que c'est pour ça que pour un TDA comme moi, là, prendre mon téléphone, c'était très tentant à plusieurs reprises. Puis là, je me disais, non, touche pas, Chris, le film, il est juste 1h07. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que le film est 1h07, mais t'as l'impression qu'il en dure 2h30. Tellement t'es dans l'incompréhension totale. Ton cerveau, là, tu finis le film, Chris, t'es brûlé. Là. C'est littéralement ça. Là.
Mm-hmm.
Fait que, écoute, je dirais que c'est dans le top 3 des films les plus bizarres que j'ai vus de ma vie. Tu sais, je t'avais demandé, Marc, de me déstabiliser. Mission accomplie, mon chum. Ça, c'est garanti. Yes. Puis, bref, j'en dis pas plus. Je vais tenter de démêler tout ça quand on va jaser du film plus en profondeur tantôt. Là, les gars, je vais maintenant passer... En fait, je vais lire la fiche technique du film et ensuite, on va embarquer dans les fun facts. Puis après ça, on embarque dans la discussion libre. J'y vais comme suit. Tetsuo The Iron Man est un film d'horreur expérimental japonais sorti en 1989. Il est réalisé, écrit, produit et monté par Shinya Tsukamoto. Le film a été tourné avec un budget de 130 000 $. Ça disait entre 100 000 et 130 000 $. J'ai jamais trouvé de box-office, par contre.
C'était pas un film qui était conçu pour... C'était conçu pour les festivals plus ouais, que pour ça, hein? Une tournée en salle. Donc, c'est un film qui est arrivé plus direct-to-video, en fait, pour le public international. Fait que je pense que c'est pour ça que tu trouveras pas de box-office.
Le film, il a vraiment trouvé son succès avec les ventes puis toutes les ouais. Les clubs vidéo trop un peu là, dans le temps, là, toutes les rentals. Ouais, exact.
Là. OK,
ouais.
On est quasiment 35 ans plus tard, puis on est 35 ans plus tard, puis on en parle encore dans les podcasts. Je veux pas, il y a quand même un cult following, j'imagine, là, pour les vrais, les diehard fans. Tu sais, dans les commentaires, dans ma question, il y avait un gars, Alexandre Allard, qui avait écrit dans le temps, quand tu possédais ce film-là, tu étais considéré comme un gars wild, puis tout. Ouais. Donc, tu sais, c'est ça, c'est. Je le ressens
tu
maintenant.
Tu connaissais
que...
tes affaires quand t'avais.
Ouais, c'est ça. C'est comme, tu sais, comme les diehard fans de musique ou peu importe. C'est comme toi qui es un fan d'électro, tu sais, comme un artiste underground que genre toi tu sais qu'il est, genre, il est big puis il est hot, mais comme quelqu'un du grand public va comme faire. Mais de qui tu parles?
C'est un film qui est très, il est très métal, on va se le dire, là, mais je vais te laisser continuer, Alec. Là, mais
dans tous les sens du terme, oui, effectivement.
Dans tous les sens du terme.
Fait que si on y va avec le casting, ce film-là met en vedette Tomorowo Taguchi dans le rôle du salarié, parce que c'est le même qu'il l'appelle. Désolé d'avance là, pour les prononciations, là, mais Kei Fujiwara qui va jouer la petite amie du salarié. On a Nobu Kanaoka qui va jouer la femme à lunettes. Shinya Tsukamoto, qui est aussi le réalisateur, qui va jouer le rôle du jeune fétichiste du métal. Et là, on s'entend que c'est des traductions Wikipédia, là, mais ça, c'est celui qui s'enfonce la tige de métal au début du film. On a Naomasa Musaka dans le rôle du médecin. Je ne me souviens même pas qu'il y a un médecin dans ce film-là. Et finalement, Renji Ishibashi dans le rôle du clochard. Encore une fois, le clochard, vite de même, ça ne me dit rien. OK, là, j'ai le goût pour les auditeurs qui aimeraient découvrir le film parce que je sais qu'environ 80% des gens qui nous écoutent présentement n'ont pas vu le film et écoutent l'épisode par curiosité. Donc, je vais donner un peu de background que j'ai trouvé sur Internet. Ça y va comme suit. Le film est le premier long-métrage de Tsukamoto après avoir passé sa jeunesse à créer des courts-métrages et à entrer dans le théâtre expérimental japonais. Comme tu l'as dit, Marc, le tournage s'est avéré très difficile. Une grande partie des acteurs et de l'équipe ont abandonné la production avant la fin. À la fin, il restait seulement Taguchi et Tsukamoto, donc les deux acteurs principaux du film, qui était là sur le plateau pour terminer le film. C'est quand même fou de savoir qu'il y a juste deux personnes qui ont terminé un film. Là. C'est assez fréquent. Et là, après avoir remporté le Grand Prix au Fanta Festival en Italie, le film a gagné en popularité au Japon, devenant l'un des best-sellers de la vidéo domestique pour le cinéma non grand public. T'en as parlé, Marc, tantôt, mais Tsukamoto a créé un premier montage du film en décembre 88 d'une durée de 77 minutes. Et Tsukamoto s'est retrouvé épuisé émotionnellement et physiquement pendant le processus du montage, en particulier en entendant encore et encore les bruits forts des effets sonores du film. Puis, encore une fois, on le dit, mais nous, on le regarde une fois, ça dure 1h07, mais lui, quand il analyse le même 5 minutes de film, puis qu'il a passé une semaine là-dessus, je peux comprendre que ça rend fou. Là. Entendre des bruits de kickling non-stop, ça doit être là, une torture, carrément. Pendant le processus de montage, le court-métrage de Tsukamoto, qui s'appelle « L'aventure de Denchu Kozo », a remporté le Grand Prix au festival du film PIA au Japon. Il a déclaré que recevoir le prix ressemblait à sortir de l'obscurité dans une lumière vive et l'a aidé à trouver la motivation pour terminer le montage du film. Quand même très cool de savoir qu'un de ses projets l'a aidé à en gagner un prix. Et pour finir, Tsukamoto a réalisé une suite intitulée Tetsuo 2, Body Hammer, sorti en 1992. Marc, est-ce que tu as vu ça?
Oui, absolument.
Ouais, est-ce que c'est aussi bon que le premier?
C'est pas aussi bon que le premier, non, parce que c'est pas le même, c'est pas la même surprise, c'est pas le même momentum. Tu sais, il y a un peu plus de budget, ça reste quand même, ça reste quand même très marginal là, comme cinéma. Mais c'est quand même à voir, il y a des scènes magnifiques dans la suite.
OK, cool.
Ouais, ouais,
c'est en noir et blanc aussi?
Oui.
Ah, OK, cool. Yeah, ça, c'est cool. Au moins, on garde un peu le même mood, la même ambiance. Là.
C'est la même, c'est la même esthétisme. Les premiers films, là, je ne veux pas dire trop de niaiseries, là, mais ces premiers films, là, il me semble que Bullet Ballet, c'est aussi en noir et blanc. Snake in June, qui est un de mes films préférés de ce réalisateur-là. On poursuit parce que le réalisateur, en fait, c'est un de mes réalisateurs préférés. Là, fait que ah ouais? Je regarde comme toute sa filmographie une fois de temps en temps. Puis Snake in June, il est comme en bleu et blanc.
OK. On
va dire en noir et blanc. Excellent aussi. Donc, ouais, ses premiers films, il n'y avait pas. Ça a été vraiment long avant que la couleur apparaisse dans ses films.
Marc pensait que c'était intentionnel d'une certaine façon parce que, tu sais, dans les années 80, tu sais, le film était tourné en 1989. Clairement, il aurait pu tourner le film en couleur. Là, c'est pas parce que c'était la technologie qui l'empêchait. Je comprends qu'il y a des restreints de budget, mais je lisais un peu sur le film à quel point que justement, pour démontrer tous les effets spéciaux, puis le sang. Puis tout a fait en sorte que le fait que le film soit tourné en noir et blanc, ça l'a comme aidé à réaliser sa vision.
100%, c'est un choix esthétique. 100%.
Ouais, cool. Mais je savais pas que les autres avaient été tournés en noir et blanc. Vas-y, Alex.
Non, c'est bien correct. Puis un peu comme, je pense que c'est Jodorowsky qu'on jasait tantôt, est-ce que ce réalisateur-là est encore d'actualité? Est-ce qu'il fait encore des films, Tsukamoto?
Oui, il fait encore des films. D'ailleurs, son dernier date de l'année passée, Shadow of Fire. Donc oui, il fait encore des films. J'ai sa fiche ici. Il a quel âge, donc? Il est né en 60.
OK. C'est ouais. 84 ans. Non, c'est pas vrai. 64 ans.
Écoute, ça veut dire qu'il avait 29 ans quand il a fait Tetsuo. Là. C'est des notes à nos écouteurs. Là. Regarde, il est jamais trop tard.
Ouais, 29 ans, il a fait son film. Effectivement. Puis est-ce que, tu sais, si dans ses plus récents films, est-ce qu'il se tient encore dans les films expérimentaux ou maintenant il va plus dans des films comme, si on veut, plus pas normal, mais conventionnel, disons?
Ça reste toujours du cinéma en marge, en fait. Là, puis je dirais que non, c'est toujours un peu des films d'auteur en marge, petit budget, parce que c'est pas un réalisateur qui a eu un blockbuster dans sa carrière, mais je pense pas non plus que c'est un réalisateur qui a été intéressé à faire un...
Ben c'est cool, il est resté fidèle à lui-même, puis il se met pas dans le moule, autrement dit, là, puis il reste fidèle à ce qu'il veut faire, puis ça, je respecte beaucoup ça, ces réalisateurs-là. OK, ben pour finir ça, les fun facts, là, en dehors du Japon, les critiques ont comparé le film au travail des réalisateurs Sam Raimi, David Cronenberg et David Lynch, tout en trouvant que le film est un film original difficile à analyser, et je confirme.
J'ajoute à tes infos qu'il y a eu un troisième Tetsuo en 2009 qui s'appelle Tetsuo the Bullet Man, qui lui a été tourné en couleur.
Ah, nice!
Du même réalisateur qui se veut comme une espèce de remake, mais c'est pas du tout la même histoire, là, en fait, comme le deuxième film. Parce que c'est cette version-là, le troisième film, moi, personnellement, je trouve que c'est un film exécrable.
OK, c'est ça que j'allais te demander. L'as-tu aimé? C'est la réponse.
Non, absolument pas.
Parce que tu changes complètement la forme de quelque chose qui était spécial. T'sais, c'est...
Oui, exactement.
Je l'ai pas vu, mais de tout ce que tu me dis, ça m'a l'air exécrable.
Il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est comme tourné en langue anglaise. On dirait qu'il a voulu comme peut-être essayer de faire une petite version... un peu plus international, puis l'acting n'est pas du tout là, le niveau de génie n'est plus du tout là, c'est assez triste. Là. J'ai pas lu trop sur la production de ce film-là, peut-être qu'il y a la présence de certains producteurs qui peuvent expliquer, là, mais bref, allez pas vers The Bullet Man qui a été fait en 2009, en fait. Je sais c'est les premiers.
Ben, c'est bon à savoir quand même, donc le 1 et le 2 valent le détour, le 3... Oui. On met ça aux poubelles et on n'en parle plus.
Exact.
OK. Bon, là, on est rendu au film, messieurs. Et là, d'entrée de jeu, je vous le dis, ce film-là est impossible à décrire dans un pas à pas. C'est la première fois en 47 épisodes que j'ai été incapable d'écrire un pas à pas, tellement la formule du film est non conventionnelle, puis c'est weird, puis je veux dire, c'est voulu. Là. J'ai jamais eu de la misère de même à prendre des notes. C'était comme des mots-clés, des phrases. J'étais comme, Chris, je mets ça où, man? J'ai... Finalement... plein de fois, j'effaçais, je recommençais, puis j'étais comme, hey, c'est quoi, fuck it, maintenant? Je vais comme décrire les 5 premières minutes, là, puis après ça, discussion libre, puis on dit ce qu'on a à dire sur le film, puis je pense qu'à partir de là, la conversation va grandir à partir de là. Justement, j'ai hâte de voir où notre conversation va nous mener. Donc là-dessus, les boys, on va y aller d'un petit music cue et on se lance dans le film. Le film commence sur des images où on voit un ouvrier qui finit sa journée de travail pour aller chez eux et s'enfoncer du métal dans la cuisse. Un petit mardi, quoi. les 2-3 premières minutes amènent déjà du bon gore et déjà là, j'étais vendu à ma première écoute. Et là, je dois le dire aussi pour les gens qui l'ont jamais vu, Mathieu l'a mentionné tantôt, mais le film est en noir et blanc tout le long. Hein? Donc, faut savoir à quoi s'attendre. Et là, déjà là, dans la scène d'intro, on est présenté au score qui se veut métal industriel, techno, je sais pas trop comment qualifier ça, mais ce score-là est vraiment intense, puis il va nous suivre tout au long du film. Ensuite de ça, suite à ce que le gars s'est rentré un morceau de métal dans la cuisse, le gars va paniquer, ses plaies se sont infectées avec des vers blancs, il va partir à courir et il va se faire bumper par un homme à lunettes, qu'on va savoir un peu plus tard que c'est lui. Puis là, on part avec une musique de style cabaret jazz des années 60, genre, on est à 5 minutes dans le film, puis déjà, ils m'ont perdu. Et là, les auditeurs, ce qui va se passer maintenant, non, il n'y aura pas de pas à pas, mais à partir de là, je vais donner le relais à Marc, qui va nous expliquer un peu c'est quoi qui se passe. Dans le fond, c'est quoi? Il va nous résumer l'histoire en général du film, puis suite à ça, à son résumé, on va élaborer sur nos scènes préférées, sur qu'est-ce qu'on a à dire, sur... parce que mon but aujourd'hui, c'est de vous vendre le film. Je veux vous convaincre de regarder ce film-là, puis avec nos analyses, parce que vous allez voir, moi, je me sens pratiquement imbécile, j'ai pas tant compris, mais je suis vraiment curieux de comprendre, puis surtout d'entendre ce que mes invités ont à dire sur le film. Donc, à partir de là, Marc, je te donne le micro. Résume-nous ça du mieux que tu peux, puis comme je viens de mentionner, après ça, on va y aller à tour de rôle et on va parler de nos scènes préférées et ainsi de suite. Donc, je te laisse aller.
Ben, en fait, je vais commencer en disant qu'il faut absolument pas que tu te sentes niaiseux de pas avoir compris grand-chose dans ce film-là, parce qu'il y a beaucoup de retours en arrière, puis il y a beaucoup de scènes rêvées qui sont pas nécessairement bien définies dans le film. On nous indique mal, tu sais, si on veut trouver des défauts à ce film-là, là. Personnellement, pour moi, je trouve pas que c'est des défauts parce que ça fait partie un peu du fantasme, puis c'est correct dans le délire. Mais si on veut trouver des défauts, on peut dire que le réalisateur arrive mal à nous faire sentir quand c'est un retour en arrière ou quand c'est une scène un peu plus surréaliste dans un rêve ou etc. Donc, c'est un peu pour ça que c'est facile de se perdre dans ce film-là. Toutefois, la trame est quand même assez simple quand tu y penses. Quand tu y penses. En gros, c'est toutefois, c'est somme toute assez simple. Donc, comme tu l'as expliqué, celui qu'on appelle le Young Metal Fetishist, qui est joué par le réalisateur, en fait, qui s'insère des trucs. On voit une séquence avec le mythe, tu disais plutôt dans le mythe, qui avait un médecin dans le générique. Puis, bref, ça, c'est... On comprend à travers le film que lui, il y a une pièce de métal dans le cerveau après un examen chez ce médecin-là. Il faut comprendre qu'on est dans un univers un peu post-apocalyptique ici. C'est pas post-apocalyptique parce que ça se déroule peut-être avant l'apocalypse. On est dans un univers plus cyberpunk, donc... qui se déroule dans un futur rapproché, où on veut essayer de comprendre comment le corps pourrait évoluer dans un univers techno. Ça, c'est des thèmes qui rejoignent beaucoup aussi la filmographie de David Cronenberg, un peu le métal et le corps, l'évolution du corps, etc. On a ce jeune homme-là qui expérimente un peu avec le métal parce que peut-être il y a déjà du métal dans son cerveau. Puis c'est comme ça qu'il évolue. Puis il se fait bumper, comme tu dis, par le char de notre cher salarié. Et puis sa copine, en fait, qui était dans la voiture. Puis, suite à ça, les deux hommes deviennent en quelque sorte liés par cet accident de métal à métal-là, en fait. Puis vont évoluer chacun de leur côté. Bon, on voit ensuite le salarié, il se réveille le lendemain matin, il y a comme il se rase. Il y a comme un truc sur la joue, un truc qui sort de son...
Genre de pin de métal, genre, là?
Ouais, exactement. Puis là, il pète ça, puis là, il y a plein de... Ça revole partout, puis c'est bon pour la caméra. C'est le début de sa transformation à lui, en fait. On découvre par la suite que lui, il entretient peut-être une relation un peu kinky avec sa blonde, parce qu'ils ont des pratiques sexuelles vraiment... vraiment hors normes, mais aussi on découvre que cet accident-là de voiture les ont peut-être aussi même excités. On voit une scène où, dans un des fameux flashbacks, où ils réagissent après cet accident-là en faisant l'amour à côté
du véhicule
et du gars, en fait. Puis bon, ben c'est quand ils essaient de se débarrasser du corps de cette personne-là qui ont heurté, ben, ils se rendent compte qu'il n'est pas mort. Tu sais, c'est quasiment le classique, là, « I know what you did last summer », dans le fond.
Mm-hmm. Ouais, il y a de ça, puis tu me parles justement de la relation avec l'humain, puis la technologie, puis le métal, mais mm-hmm. ça fait penser aussi à Titan, tu sais, qui est sorti, puis que la fille, il y a une scène, elle est quasiment littéralement en train de fourrer un char, c'est comme littéralement ça qui se passe. C'est que la différence, je pense, de la manière que c'est approché avec Tetsuo, c'est dans la forme, c'est très abstrait, c'est très expérimental. Je pense que ça laisse beaucoup à l'interprétation. C'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant de t'entendre parler de ça, Marc, parce que moi, il n'y a pas tous ces détails-là que j'ai cachés, surtout sur le premier visionnement. T'es tellement juste... Tu t'es pitché plein d'informations différentes, puis c'est très choquant par moments. Puis quand j'ai dit que j'ai trouvé ça drôle, on va juste régler le... Il y a des bouts qui sont drôles, sans trop avancer, parce que là, comme tu dis, Alec, on peut pas trop suivre la forme, parce qu'il n'y a pas vraiment de forme, mais... Il y a ce moment-là que le gars, il est avec la fille parce que tu parles de kink sexuel, puis que tout d'un coup, son pénis devient une drill mécanique, puis qu'il passe à travers la table, puis que là, ça devient quasiment une scène de rape. Mais je sais pas à quel point que je me sentais, j'étais comme tellement confus par tout ce que je voyais. C'est mélangeant, c'est très mélangeant.
En même temps, il y a quelque chose de vraiment cool, je trouve, dans le fait de... Toi, c'était ton premier visionnement, deux, c'est votre premier visionnement. Ouais. Il y a quelque chose de vraiment spécial à découvrir ce film-là aujourd'hui en 2024, alors que vous êtes dans la trentaine, je pense, les deux, ou presque. Versus comme... Tu découvres ce truc-là, tu sais, un peu à la fin des années 90, début 2000, puis t'es comme au début de ta cinéphilie, là, tu commences à écouter des films un peu étranges, là. Fait que, ouais, je trouve ça le fun quand même quand tu dis que t'as trouvé ça drôle, tu sais, parce que aujourd'hui, ça peut paraître un peu clownesque, là, je sais pas. Mais il y a quand même quelque chose de violent là, dans cette drill-là. Là, on s'entend.
Il dit littéralement, genre, « You want a taste of my sewage pipe? » Tu sais, comme il y a des lines dans le film. Tu sais, c'est traduit, là, mais comme clairement, il y a des lines dans le film qui sont voulues d'avoir une intention de choquer l'audience puis de créer une réaction. Là, ça, c'est sûr et certain. Là.
Absolument.
Mais écoute, Marc, parce que là, je vais avoir plusieurs questions, mais mettons, là, on était rendu au bout où ils ont la relation sexuelle, puisque c'est ça, ils sont comme kinky, ça les excite un peu. Si on poursuit, mettons, dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe après, où est-ce que le film nous amène? Tu peux même raconter jusqu'à la fin, puis ensuite de ça, on peut repartir du début, puis là, vraiment, là, y aller scène par scène, puis nous dire qu'est-ce qu'on a pensé, justement, là, du film en général, mais parce que ça, j'ai des choses à dire. Mais je veux quand même attendre que tu aies raconté le film jusqu'à la fin parce que je veux pas comme dévoiler trop de choses tout de suite.
Écoute, j'espère que j'oublierai rien là, parce que j'avais pas. Mais bref, donc suite à cette altercation là avec sa blonde, bon, en fait, elle est décédée là, on s'entend là. Puis lui décide de la garder dans son bain. Puis on voit ensuite qu'il est comme un peu couverte de fleurs là, donc on imagine qu'il est très quand même assez triste la situation d'avoir malencontreusement tué sa blonde. Puis il la garde un peu en.
En otage, là, mais...
Ouais, c'est voilà, ça.
Je comprends ce que tu veux dire, ouais.
Puis, en fait, ce qu'on comprend, ben, ou ce qu'on tente de nous faire comprendre, c'est que, parallèlement, l'autre garçon, lui aussi, a subi une transformation un peu différente de celle de du principal salarié. Le principal salarié, on comprend un moment donné qui est plus stainless steel, parce que avec la relation avec son rasoir, en fait, puis tout ça au début, puis l'autre, le premier, serait plus un amalgame de rouille, en fait.
Mm-hmm.
Puis ce qui est un peu cool aussi avec ce film-là, c'est que c'est un autre take sur le mythe du super-héros, en fait. Tu te fais piquer par un truc d'une araignée, ben tu deviens une araignée. Tu te fais piquer par un truc de métal, ben tu deviens un amalgame de métal.
Ben écoute, la fin, c'est clairement une bagarre entre deux super-héros, quasiment. Là.
Exact.
C'est ça. Là, c'est...
Puis ce qu'on comprend à un moment donné, c'est que notre Rusted Man, lui qui est plus en rouille, ben, il a des habiletés un peu psychiques. Là. Il est capable de contrôler la matière, il est peut-être capable de t'envoyer des messages, tout ça. Donc, il réussit à retrouver le salarié comme ça. Puis il y a même une scène où... il rentre en quelque sorte dans la maison avec une espèce d'amalgame de foam, puis il réussit à prendre possession du corps décédé de la copine. Puis, puis là, le manège recommence, puis tout ça. Puis là, c'est un peu là où ça devient confus dans ma tête, qu'est-ce qui se passe ensuite, mais...
of course!
Suite à ça, là, mettons là, qu'on résume là, à la fin, il y a comme la bataille finale, si on veut.
Oui.
Là, puis ils vont comme tout merger ensemble pour finalement vouloir conquérir le monde et devenir tous des êtres de métal. Puis c'est très punk comme façon de penser, oui. Puisqu'ils disent notre amour va conquérir le monde. Puis...
Mais moi je trouve ça romantique.
Ouais. Écoutez, moi dans le fond c'est ça. Je voulais juste que tu fasses un résumé pour qu'on sache à peu près dans quoi on s'embarque. Mais mettons qu'on retourne en arrière. Là oui, on a décrit la scène d'intro. Moi j'ai quand même des questions. Par rapport, disons, on voit souvent dans un flashback un homme qui est couché en petite boule dans de l'eau. Moi, j'ai comme comparé ça un peu, j'ai fait une métaphore avec un utérus de métal, si on veut. Là, c'est comme s'il était dans un... en fécondation, je sais pas comment dire ça. C'est comme s'il était en train de grandir. Tu sais de quoi je parle, là, le fameux flashback où on voit tout le temps... j'imagine que c'est le gars qui s'est rentré la tige de métal dans la cuisse. Là. On le voit souvent, il y a comme d'un petit bassin d'eau, il est entouré de fils de métal, puis il est comme en petite boule là-dedans. Mais ça, on le voit souvent, là, c'est des petites parcelles d'images. Puis là, je me demandais, est-ce que c'est parce qu'il est comme en train de faire sa transformation ou parce que tout le long du film, on suit le salarié, mais
ouais.
Par moment, on a des petits flashbacks de l'image que je te parle présentement. Est-ce que ça dit quelque chose? Puis est-ce que tu penses que ma théorie de l'utérus, dans le sens où il est comme en train de grandir, de morpher,
en gestation, ouais.
Oui, en gestation, fait... excellent, oui, c'est ça. Oui.
Ça fait vraiment du sens, puis en même temps, c'est aussi pour se souvenir que cette menace-là qui plane, puis qui attend, tu sais, en retrait de l'histoire, là, puis qui évolue, puis qui va éventuellement arriver, là.
OK, parce que c'est ça. Là, je pense que c'est l'affaire qui me fuckait le plus. J'étais comme, mais c'est quoi ça? C'est qui ce gars-là? Puis c'est vraiment en écoutant un podcast aujourd'hui que j'avais déjà ça en tête, mais j'étais comme, bah, je pense pas. Là, mais non, eux aussi, ils en ont parlé, puis j'ai fait, Chris, ça fait du sens. Dans le fond, c'est comme s'il était comme en train de compléter sa transformation. Fait que, OK, ça, c'est la première question.
Mais juste avant, sur cette note-là, pendant que tu en parles, Alex, ça me fait.
Ah oui.
À force d'en parler, ça me donne vraiment l'influence de Cyberpunk que de Matrix a eu. Puis ça fait penser à la scène que Neo, il arrive dans son cocon, puis qu'il y a toutes les espèces de machines qui sont derrière. Ça me fait vraiment penser au moment que Neo rentre dans la Matrix, puis qu'on dirait qu'il naît. Fait que c'est, je trouve ça intéressant que tu parles de tout ce concept-là, parce que ça donne... Autant que le film a eu des influences, dans le sens que le film a été influencé par Cronenberg et Sam Raimi, mais je pense qu'il a aussi influencé des choses après, comme Pi de Aronofsky puis The Matrix. Fait que c'est un monument spécial dans le cinéma, je trouve. Je trouve ça intéressant, quand même.
Les créateurs qui font un film dans un souci de cyberpunk, en fait, c'est certain qu'ils connaissent ce film-là, puis que ça devient... comme un peu, ben, tu sais, aussi avec le cinéma de David Lynch, aussi avec Blade Runner. Mais, tu sais, ça devient un des piliers du cyberpunk, en fait. Mais oui, 100%, la Matrice, on voit des références
beaucoup
à la Matrice, oui.
Donc, Tetsuo aurait inspiré plusieurs films, autrement dit, là, puisque... Ça ferait du sens, là, parce qu'on s'entend que La Matrice est sortie 10 ans plus tard.
Ouais.
OK, c'est ça. Une autre affaire que j'avais plus ou moins compris, c'est que, comme tu as dit un peu, tu sais, on pourrait dire que c'est comme un style de film de super-héros, puisque tu te fais piquer, tu deviens quelqu'un de métal, mais moi, j'ai plus vu ça comme une contagion, tu sais. C'est limite, ça faisait zombie un peu. Tu sais, quand on voit au début là, la confrontation entre le gars et la fille dans la station de métro, d'ailleurs, très belle scène, très bien shootée, là, quand il est dans la salle de bain, puis est au-dessus de lui, sur le grillage. On observe tout autour, là, tout est fait de métal. Il n'y a rien qui n'est pas en métal là-dedans. C'est fou comment ils ont mis le souci du détail sur tout ce qui est métal. Mais mon point n'était pas ça. C'était vraiment de dire, j'avais comme pas vraiment catché que c'était, dans le fond, c'est une contagion. Là. Fait qu'à la seconde où tu es confronté à quelqu'un, même pas de besoin de te faire piquer, là, je pense que c'est limite, tu te fais toucher, puis tu es comme infecté. Là. L'avez-vous vu comme ça, vous? Dans le sens où je le vois comme une contagion, dans le fond. C'est ce que j'essaie de dire.
Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que oui, il y a certainement un effet, on dirait que ça devient un virus un peu qui les emprisonne. Puis dès le départ, moi, j'ai un aspect avec les cauchemars un peu. Tu sais, des fois, tu fais des rêves que tu perds tes dents ou des trucs de même. C'est un peu, ça reflète un peu au body horror. Mais le film commence justement avec la joue puis tous ces aspects-là. Puis on dirait que ça devient que ça te consume puis que ça devient un monstre. Fait que, je pense que ce que tu dis, c'est t'as pas tort, Alex. Il y a clairement un aspect de tout ce body horror-là qui commence à consumer les personnages à travers le film. Puis c'est tous les personnages. Il y a personne qui est à l'abri de ça. Là. Chacun des personnages, je pense, devient un peu comme affecté par cette espèce de virus-là, là, comme on peut l'appeler. Là, si
ouais, veux, c'est là. Ça, parce que la fille dans le métro, là, au début, là, elle sort de nulle part, elle-là. Puis elle est juste déjà infectée, puis elle commence à courir après le gars, puis... Lui, il veut pas, je pense qu'il avait déjà il était déjà un peu infecté, là, il était déjà un peu de métal, parce que au moment où on parle, est-ce qu'il avait déjà rentré dans l'autre? Oui, hein? Ben oui, c'était
ouais.
Il avait déjà frappé l'autre gars en véhicule. Hey, des auditeurs qui n'ont pas vu le film se demandent en crisse de quoi qu'on parle.
C'est ça qui est drôle.
Oui, vraiment. OK, un autre point, je voulais mentionner. On dit de ce film-là qui est un film kaiju un peu. Puis moi, on dirait que la seule référence que j'ai d'un film kaiju, c'est avec Godzilla. Donc, j'imagine qu'ils font référence surtout à la scène finale qui, moi, m'a beaucoup fait penser à la série des Power Rangers que j'écoutais quand j'étais jeune. Mm-hmm. Tu sais, on s'entend que c'est comme des grosses batailles de robots, genre, limite dans un centre-ville, mais est-ce que le kaiju, comment vous l'interprétez dans ce film-là?
Ben 100%, tu sais, ça vient des inspirations de ce film-là. Tu sais, si tu vas lire un peu sur comme le cinéma de qui a influencé le réalisateur dans son enfance, tu sais, il y a des films de kaiju, il y a des films de... Il y a du cinéma d'animation japonais, donc c'est souvent des trucs...
Comme Ultraman, Gamera, exactement. Là, c'est exact. Ça, ouais.
Donc oui, il y a vraiment des inspirations kaiju là-dedans, oui.
OK, non, c'est ça, mais je me demandais justement, vu que c'est quand même bien écrit, là, que c'est... Je me demandais qu'est-ce qui détermine qu'un film est un film kaiju, autrement dit. Mais là, c'est sûr
que tu parles dans des...
Mais c'est une bonne question, mais c'est tout le temps d'avoir, je pense, une espèce de présence. Puis c'est au niveau de l'interprétation. Tu utilises des thèmes, puis tu crées un monstre avec ces thèmes-là. Moi, c'est un peu de même que je le vois. T'sais, comme Godzilla, ça a tout le temps été une métaphore pour la bombe atomique. Fait que dans le cas de Tetsuo, je pourrais pas dire exactement c'est quoi. C'est peut-être la relation entre l'humain et la technologie. Mais c'est tout le temps de créer, je pense, un monstre qui devient une création comme vraiment weird. Puis encore là, il y a beaucoup d'autres influences qui viennent avec ça. Mais moi, quand j'écoutais le film, j'ai tout de suite pris des notes que ça me faisait beaucoup penser à des films de kaiju. Est-ce que je peux mettre le doigt là-dessus spécifiquement en ce moment? Je sais pas, mais c'est très kaiju. Ça fait
okay.
très...
C'est pour ça que je mentionnais que comme la scène finale, c'est ce qui se rapprochait le plus pour moi d'une scène kaiju, si on veut, là, puisque c'est comme combat... fait de monstres, là, littéralement,
ouais,
dans la ville.
Mais si, si on parle du personnage du salarié, tu sais, il y a beaucoup de choses dans sa vie qui pourraient faire en sorte qu'il devienne un monstre. En fait, ben, il a essayé de domper quelqu'un qui a presque tué, donc il y a peut-être des regrets par rapport à ça qui se développent. Il y a une sexualité peut-être réprimée avec sa copine. On le voit plus dominé. Il y a une séquence de rêve aussi où on le voit se faire sodomiser.
Oui, parlons-en de cette scène-là.
Par sa copine. Ce qui est vraiment intéressant, ce que je trouve cool aussi dans le cinéma de Tsukamoto, c'est que les femmes sont jamais passives. Des fois, si on regarde un peu le cinéma des années 80, et avant ça, les femmes subissent un peu plus l'horreur, sont terrorisées, sont un peu plus faibles. Puis les femmes dans son cinéma, ils ont toujours un rôle un peu plus fort. Tu vois, quand il y a sa drill, là, elle est comme « Non, j'ai pas peur, montre-moi » ou je sais pas quoi, il y a comme un jeu là où lui...
Il s'en va dans la salle de bain.
Il y a rien qui me choque, comme oui, tu peux tout montrer, puis genre, ça m'impressionnera pas.
Puis tu sais, elle est forte, puis justement, dans la séquence précédente, la séquence de rêve où... Elle se transforme, elle a une espèce de phallus qui est comme une espèce de long tuyau là, qui ressemble à un serpent. Puis, finalement, qu'elle sodomise son copain. Tu sais, ça pourrait représenter, en fait, une sorte de domination qu'elle a envers lui. Fait que lui, peut-être qu'il est réprimé par ça. Tu sais, il y a aussi la scène d'accident, quand on le voit en flashback, tu sais, c'est un peu elle qui initie la relation sexuelle. C'est elle qui est comme un peu allumée par l'accident, puis elle est comme « Ah, viens, on va faire l'amour, genre, là, sur l'arbre, tu sais. » C'est un peu comme ça que je l'ai perçu, là. Je sais pas si c'est moi qui...
Non, Marc, 100%, moi, pour vrai, je suis 100% d'accord avec toi. J'avais justement écrit des sentiments de sexuels qui sont réprimés, surtout dans le bout. Ou que, comme tu dis, là, que son pénis devient drill, puis là, que la fille, elle se cache dans la salle, mais elle est comme, « Ah, oh, mais là, moi, c'est correct, là, je peux venir voir pareil. » Puis tout ça, ouais, ça devient ça. Très weird, toute la dynamique qui se passe en là, puis je pense que...
oui, ben, tu sais, surtout que, disons... après la scène, justement, là, du pénis en drill, là,
ouais.
Tu sais, elle va le stabber, puis ouais. Il va mourir, puis tout de suite, aussitôt qu'il meurt, elle va aller le licher comme si...
C'est ça.
Tu sais, clairement, là, elle a un petit quelque chose entre les deux oreilles, là, qui fait qu'il marche pas trop, mais c'est ça, elle a vraiment un kink quelconque, puis c'est ça, mais là, tu sais, on en a parlé vaguement, mais... La scène du rêve où ce que justement elle sodomise son chum avec les tentacules métalliques, là. Puis la scène suivante qui est la drill électrique là, sous forme de pénis. Là.
Ouais.
Comment vous voyez ça, cette scène-là? Parce que là, oui, on a parlé de sexualité réprimée, disons, avec le rêve. Du côté de la drill, ça serait quoi votre interprétation de ça? Pourquoi c'est là?
Juste parce que c'est... Ben pour moi, c'est juste parce que c'est un peu choc puis c'est excessivement cool là, dans un film. Là. Esthétiquement, tu sais, ça fait quand même son effet, même encore aujourd'hui. Puis quand il la transperce, c'est pas graphique, mais tu sais, il y a une espèce de rideau de sang là, en arrière d'elle puis qui est comme... C'est vraiment très violent. Là.
Ouais.
Mais il y a nécessairement quelque chose dans la sexualité de ce couple-là qui fonctionne pas ou qui est un peu détraqué. Fait que nécessairement, la drill, il est là pour quelque chose. Là.
Ben, 100%, là, ça devient un peu un moment, un peu, on dirait que ça tourne comme un slasher movie pendant une seconde, puis que là, ça devient sa machette, un peu comme dans Jason. T'sais, Jason aussi, on sait que là, c'est un jeune, t'sais, on va pas rentrer là-dedans, là, mais il s'est fait maltraiter, puis tout ça, puis tout le long, on dirait que tout le long de la franchise de Jason, il y a de quoi avec sa machette, puis il faut qu'il rentre dans les jeunes filles. Mm-hmm. Ben, je pense que c'est un peu la même chose qui se passe avec Tetsuo. À ce moment-là, il est là avec sa drill, puis là, ça devient un peu son arme pour comme atteindre la femme, puis c'est spécial la manière que ça se passe, parce qu'elle, on dirait qu'au début, c'est comme « Ah, ça me dérange pas », mais là, du moment qu'il sort avec la face toute croche, puis avec sa drill, tout d'un coup, ça étend moins, puis ça devient vraiment malaisant d'une façon, parce que ça devient littéralement une scène de rape, s'il veut pas, là, c'est un peu ça que ça devient. Là, c'est...
Ouais, ça étend pas tant, mais à la seconde où ce qui est passante, par exemple, elle s'assoit sa drill, puis aussitôt qu'il se réveille,
c'est vrai. T'as raison.
T'as un esti de plage de sang, fait que...
T'as raison.
Elle l'a quand même essayé, là.
T'as raison.
Mais il y a aussi quelque chose d'important, à dire, c'est que nous, on est là à essayer de trouver des significations de chaque scène, mais pour le réalisateur qui était jeune à l'époque, puis pour lui, c'est un premier... il avait fait des cours avant, mais donc pour lui, ce film-là, c'était quand même une démarche très intuitive. Okay. Fait qu'il cachait pas nécessairement des symboliques derrière, comme un cinéaste expérimenté, tu sais, qui veut parler de la mort, ou, tu sais...
Des fois, c'est l'inconscient qui travaille, Marc. Peu importe ce que tu fais, que ce soit dans l'écriture ou tout ça, tu sais, c'était peut-être dans son inconscient. Lui, c'était décidé de s'exprimer, puis ça a juste paru qu'il était peut-être dans ce stade-là dans sa vie, qu'il y avait peut-être des... En tout cas, je sais pas, là.
C'est 100%, mais c'est correct aussi de pas voir la symbolique partout, tu sais, mais c'est super intéressant
dans ce film. Non, mais c'est ça, mais de toute façon, dans une démarche artistique, là, lui, il a créé quelque chose, puis nous, on est comme... Ouais. On 100%. Consomme son produit. Là. Comme j'ai dit tantôt d'entrée de jeu, là, dans un film expérimental, je pense pas qu'il faut chercher à comprendre. Il faut apprécier l'art qui nous est proposé, puis comme faire comme « Oh, Chris, ok, c'est spécial dans sa tête, lui, tu sais. » Puis moi, c'est plus de même que je le vois, autrement dit. Mais là, prochain point que j'aimerais ça qu'on mentionne, après ça, j'aimerais ça qu'on parle un peu plus de l'aspect technique du film, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus.
Ouais.
Marc, j'aimerais ça que tu nous parles un peu d'un des gros points du film, qui est la musique. Je l'ai dit tantôt, toi, t'es un fan d'électro. Tu poses souvent des stories avec des extraits de musique, genre d'un artiste quelconque que tu vas aller écouter. Moi, c'est pas de la musique que j'écoute, mais c'est quand même... Moi, je suis ouvert à écouter toutes sortes de musique. Puis je vois un peu un style dans l'électro que t'écoutes. Puis dans ce qui nous est proposé dans ce film-là, est-ce que c'est le genre de musique que... Comment tu qualifierais tout court là, le type de musique qu'on entend dans le film? Est-ce que c'est comme du techno-industriel métal? C'est quoi exactement?
Je dirais comme du noise industriel. Puis c'est intéressant parce que Nine Inch Nails, qui est comme un des piliers du groupe, du mouvement un peu industriel, a fait une chanson pour Tetsuo 2.
C'est Atticus Ross puis Trent Reznor, là, les deux qui ont fait la loi. Ouais, exactement.
Ouais, donc ça rejoint quand même beaucoup le mouvement industriel. Mais tu sais, la commande que le gars avait, je pourrais pas te retrouver son nom en ce moment, là, pour créer la trame sonore, c'était la seule commande qu'il y a eu, c'était comme « je veux que ça sonne comme si c'était du métal ».
Ouais.
Je veux que je donne un son au métal, là. Puis je veux au métal, pas au métal la musique, là, au métal la matière, en fait. Puis ouais, c'est ça. Puis parallèlement, ben plus personnellement, j'écoute beaucoup d'un genre qui s'appelle l'electronic body music.
OK.
Puis le body fait référence à la musique industrielle puis à la musique post-punk. Donc oui, il y a un lien à faire entre les deux.
Non, mais c'est vraiment intéressant parce que c'est ça, c'est, comme je l'ai dit, c'est une musique que moi, je connais plus ou moins, mais... qui était vraiment approprié au film. Là. Justement, on voit... J'ai lu aussi là, que le gars qui a fait le score était vraiment excité de travailler avec le réalisateur parce que c'était comme la première fois qu'il y avait une commande de ce genre-là. J'ai trouvé ça vraiment cool. Mais non seulement ça, mais aussi les bruits. J'aimerais ça qu'on parle d'une scène en particulier quand le salarié fait goûter une saucisse à sa blonde.
Oui.
C'est des bruits de métal.
Alex, j'avais littéralement une... Tu m'as dit scène marquante, puis moi, c'est le moment de la fourchette sous les dents. Hostie, que je voulais en parler. Fait que vas-y, je te laisse continuer, là, mais je vais
en parler. Ben écoute, t'as l'air vraiment emballé. Là. J'aimerais quasiment ça que tu poursuives, mais dans le fond, je veux qu'on parle de cette scène-là. Là. Comment, à quel point... Comment vous l'avez interprété, vous? On dirait qu'il... Est-ce qu'il hallucine? Comment vous interprétez ça? On dirait qu'il est limite, ben pas limite, là, il est clairement excité par ça, là, mais tout est sous forme de bruit métallique. Là, je sais même pas comment le décrire, mais t'avais l'air trop hype. Là. Poursuis, Mathieu.
Non, mais pour moi, c'est littéralement le son un peu de des ongles sur un tableau à l'école. Là. T'sais, là, quelque chose qui trempe dedans, ça fait tellement, c'est grinçant, je sais pas, ce moment-là m'a vraiment marqué, mais c'est juste le fait qu'il y a juste là doucement au début, puis qu'il apprend à boucher, mais que le son overwhelm, puis qu'il prend complètement comme part de tout ce que t'entends dans le film, c'est juste la petite fourchette qui grisse des dents, puis je sais pas, ça me donnait des frissons, là, il fallait juste que j'en parle, à quel point ça me rentrait en dessous. Là,
pour un acte qui se veut comme limite sexuelle, si on veut, on s'entend qu'elle liche la saucisse d'une façon assez sexuelle, mais... c'est mélangé avec un bruit strident qui c'est vient ça. Comme... Mais eux, ça a l'air d'être vraiment leur kink, hein? Fait que, tu sais, lui, ouais. On dirait qu'il en sue, là, tellement qu'il... Genre, il en peut plus ou...
Oui, ils sont tous en sueur! C'est excellent!
Toi, Marc, comment tu perçois cette scène-là?
Comment je l'interprète?
Oui. Ben, je veux dire, le bruit, est-ce qu'il aime ça ou il aime pas ça?
Mais pour moi, c'est comme ses sens qui s'altèrent. Fait que, mettons, pour lui, les sons deviennent métalliques, le goût devient métallique. T'sais, comme il est en train de se transformer en métal. Fait que c'est un peu comme ça que je le vois. Puis lui, ben, elle, en fait, sa blonde, c'est comme une scène où elle est un peu aguichante. Mais lui, mm-hmm. Lui, ça le fait capoter parce que là, il a une nouvelle sensation dans son corps, étant donné qu'il se transforme mm-hmm. tranquillement en métal. Fait que c'est un peu comme ça que je le perçois, mais comme quand tu parlais de drôle, cette scène-là est quand même assez,
oui.
assez
ouais,
drôle.
Oui. Mathieu, c'est une scène drôle.
J'en conviens.
Quand je disais tantôt que durant ma première écoute, j'ai ri à 2-3 places en voulant dire, mais c'est quoi, je regarde, mais ça en faisait partie. Là. Ouais. Comme, c'est quoi qui se passe? Là?
Puis moi, l'affaire, ce qui arrive, c'est qu'une fois que je vais être à la table à soeur, puis quelqu'un va manger dans sa fourchette, puis tu sais, il y a du monde qui a une tendance à comme grincer sa fourchette, je vais tout de suite penser à Tetsuo à soeur. Il n'y a aucun doute. Là, s'il n'y a aucun doute.
Est-ce que vous trouviez ça aussi un peu étrange, la manière dont elle se maquille?
Ouais, 100%.
Tu veux dire le look? Ah, tu sais, on dirait que j'ai.
Ouais.
Mais encore, élabore, je me souviens pas.
Ben, en fait, tous ces gens-là, cette femme-là, mm-hmm. en fait, c'est une fidèle collaboratrice de Tsukamoto. Puis, ils ont fait des années de théâtre ensemble. Puis, ils sont juste, en fait, elle a gardé son maquillage de théâtre
okay.
un peu traditionnel japonais pour ce film-là. Fait que ça donne... Parce que j'imagine... Bon, esthétiquement, il y a quand même quelque chose là, mais j'imagine que ça doit être aussi un genre de réflexe de maquillage.
Ouais.
Mais ça donne comme quelque chose qui est vraiment étrange à voir, tu sais, la manière dont elle se maquille.
Ben, j'ose pas dire que c'est comme du théâtre kabuki, là, mais il y a eu comme, tu sais, au niveau du Japon, du cinéma japonais, c'est pas exactement pareil. Mais comme il y a souvent eu des styles de même qu'on a pu voir, mais moi, ça m'a juste vraiment fait...
Mais ça vient du théâtre, en fait.
Ouais, ouais. Exact. Mais je voulais parler des performances, mais ça viendra m'amener, Alec, là, je vais te passer à POC, mais à m'amener, il faut que je parle des performances. À m'amener.
Oui, ben parlons-en, vas-y.
Okay. Ce que je trouve vraiment impressionnant, puis tu parles de performances théâtrales, c'est que tout le monde, on dirait que dans le film, ils jouent à 120 000 %. Ils sont pas comme à 5, ils sont pas à 4, ils sont à 120 millions de % all-in. Puis je pense que c'est ça qui fait que le film fonctionne. Le fait qu'ils sont autant all-in, ça me rappelle, tu sais, les comparaisons avec Sam Raimi, ça me rappelle Bruce Campbell dans Evil Dead, qui est seul, puis qui est là avec le make-up, puis qui fait tout en sorte que le film fonctionne. C'est à cause des performances des acteurs. Puis quand que je lisais dans le background du film, c'est qu'il est comme, t'avais quasiment juste une take. Fait qu'ils essaient de donner tout leur 110% à chaque take. Puis ça paraît tellement dans les moments que tout le monde joue intensément. C'est pas juste comme, OK, là, faut que t'aies l'air triste, là. C'est comme, puis là, ça crie. Ça devient vraiment intense rapidement. Over the top, mais bien réussi. Parce que c'est pas pour tout le monde. Mais moi, c'est un autre aspect qui me faisait rire, des fois, les performances.
Ben, je suis 100% d'accord, puis je l'avais même écrit dans mes points forts du film là, que l'acting est très, très, très théâtral, c'est très convaincant. C'est là qu'on voit aussi, tu sais, Marc l'a mentionné tantôt, que lui, ce qui le fait triper de ce film-là, c'est le craft, l'investissement, l'amour qui a été mis là-dedans, mais on le ressent autant dans la performance que justement dans tout ce qui est props, body horror, les practicals, toutes ces affaires-là. Je trouve qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup d'amour qui s'est mis là-dedans.
C'est juste le maquillage de transformation, tu sais, c'est juste la scrap de métal qui ajoutait des, tu sais, jour après jour, par-dessus l'acteur, tu sais, puis s'il y a personne qui était là pour confectionner un truc, là, léger, puis, tu sais, c'est vraiment de la scrap de métal qui collait sur l'acteur, genre.
Le fait que ce soit en noir et blanc aussi, là, ça rajoute au côté sale un peu du film. Puis j'imagine que c'était plus facile pour eux aussi de cacher là, les imperfections. Là, parce qu'on s'entend, tu sais, sur certaines scènes, là, on voit vraiment comme que c'est pas boboche. mais tu sais, dans le sens où le maquillage décolle un peu, les prothèses sont plus ou moins collées, c'est là qu'on se rend compte que vers la fin du film, il était vraiment juste deux. Là.
Ben, c'est filmé d'une façon très frénétique, tu sais, vraiment avec un montage brusque, la caméra qui tilte, tu sais, c'est du shaky cam, il y a des close-ups qui sont extrêmes, mais c'est tout le temps, je pense, d'une façon, ça isole les défauts, mais ça met en valeur toutes, je pense, les thématiques du film. C'est pour ça que je trouve que c'est un bon film. Mais qu'on arrive à la note, là, je vais dire ce que j'en pense, mais je pense que c'est un bon film malgré ses défauts. Ça a un rythme très rapide, c'est tellement unique comme expérience que de la manière que c'est filmé, qui est complètement volontaire puis en même temps accidentel parce que tout le monde se poussait du film puis qu'il était pogné à filmer le film tout seul, c'est ça qui fait la beauté de Tetsuo, selon moi. Là.
D'ailleurs, tu parlais de la shaky cam, là, si vous apprêtez à découvrir la filmographie de Tsukamoto, là, préparez-vous parce que genre si vous aimez pas le found footage, là, vous avez rien vu. Il est capable de filmer des drames avec cette shaky cam là, genre c'est absolument déstabilisant, puis c'est viscéral là.
Mais j'imagine que t'as l'impression d'y être, par contre, vu que c'est très réaliste là, quand on a une shaky cam là au final. Mais c'est ça, c'est pas pour tout le monde parce qu'il y en a bien gros qui vont dire ah non, ça m'étourdissait.
Ouais, exact.
Mais justement, avant qu'on passe, parce que on va finir l'épisode en parlant des points forts, des points faibles du film. Mais avant, j'aimerais ça qu'on parle de l'aspect technique. Justement, on a parlé du montage. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à ça? Parce que moi, là, ce qui m'a vraiment fasciné, c'est les quick cuts. Beaucoup de cuts. Je peux comprendre à quel point le gars a rushé en salle de montage parce que, man, il y en a en esti des cuts dans ce film-là. C'est incroyable.
Ouais. Puis là, on n'est pas sur Premiere, puis on n'est pas sur DaVinci Resolve.
Non, on coupe la pellicule.
On est sur pellicule, là, puis c'est, moi, c'est comme waouh.
C'est vrai.
ouais, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Puis j'en ai parlé aussi au début, tu sais, que toute la sonorité, je parle pas de la musique du film, mais je parle de tout l'aspect sonore du film, soit fait en post-production aussi. C'est un niveau un peu extrême. Ça crée un espèce de décalage avec le film parce que quand tu regardes les images, tu sais bien que c'est pas les vrais sons, là, tu sais, c'est des sons qui sont super amplifiés, puis etc. Mais avec cette espèce de... Ça crée comme une espèce de collage surréaliste qui fonctionne au final, puis tout ce craft-là, puis moi, je trouve ça... Je me répète, là, mais tu sais, je trouve ça vraiment génial, puis ça prend une patience de fou, là. Quand je te parlais de la Casalobo... encore une fois, vous irez voir la bande-annonce, là, mais vous allez comprendre de quoi je parle. Quand je dis que le crafting, tout le fait main, moi, ça m'impressionne. Il y a beaucoup de séquences en stop motion aussi dans le film. La majorité des effets spéciaux sont faits en stop motion. Puis si quelqu'un fait un truc en stop motion, on dirait que déjà, il y a toute ma sympathie parce que ça prend une patience infinie, en fait.
C'est un investissement de fou, man. Surtout quand tu sais que c'est un film qui s'en va directement pour des festivals. Ça me fait capoter de savoir que le gars s'en est rendu malade pour faire un film qui peut-être ne marchera même pas, tu sais. Fait que c'est là que quand ça vient du cœur, c'est fou, man.
Mais c'est ça, la passion, tu sais. Évidemment, je peux pas parler pour lui, mais c'est évident qu'il a fait ce film-là par passion, puis pas parce que ça allait le rendre riche ou parce que... Je sais même pas si ce monsieur-là est riche dans la vie, ça doit pas. Mais il l'a fait par passion, puis au final, quand tu fais un truc dans ces circonstances-là, ça se ressent.
Ouais, totalement. Toi, Mathieu, du côté technique, avais-tu des choses à mentionner, des choses qui t'ont frappé?
C'est exactement comme que Marc dit, c'est un film qui est filmé en 16 mm, puis qui a été monté comme, tu sais, à la main. Il faut que tu oublies le concept d'aujourd'hui de montage, puis des programmes qu'on connaît, puis que tu penses comment ce film-là a été construit. C'est complètement, c'est mind-blowing, c'est ahurissant, mais c'est aussi de ces séquences-là qui sont faites en stop-motion. Puis j'ai l'impression qu'il y a vraiment un peu de time-lapse aussi, mais c'est tout du stop-motion, mais ça me fait penser beaucoup au film des années 60 de Time Machine, que c'était les premiers effets de time-lapse qui étaient intégrés, puis tout ça. Puis c'est gros des effets que tu vois des choses se grandir. Fait que tu sais, quand tu parlais de virus tantôt, d'Alec, puis de contagion, je trouve que c'est une raison pourquoi ils ont utilisé cet aspect-là. C'est que ça donne une impression que c'est en train de grandir sur toi, puis tu le vois grandir à vue d'œil. C'est spécial comment c'est intégré, mais je trouve que, encore une fois, pour revenir au point que c'est un film que tu ne pourrais pas refaire aujourd'hui, même si ça tente de refaire, tu reprends les mêmes caméras, puis tu vas essayer de refaire le même film, tu ne seras jamais capable de refaire ce film-là, parce que ça a été fait avec des moyens, des personnes, des conditions tout, c'est un peu comme Evil Dead, c'est une lightning in a bottle. Ça peut juste, tu peux pas refaire ce film-là. Puis ça, c'est des aspects de même qui fait que c'est un film qui est unique. Puis c'est ça, le, tu parles d'aspect technique. Je pense juste au le montage, c'est comme à quel point que ça a dû faire des maux de tête. Ça,
c'est incroyable, ça. Incroyable.
Parce que tu sais, le stop motion, c'est vieux comme le monde. Tu retournes à Méliès, puis c'est des techniques qu'ils utilisaient. Mais utiliser ça de cette manière-là pour créer ces effets spéciaux parce qu'il n'y avait pas d'argent, c'est absolument brillant parce que ça fonctionne au final.
Ouais, puis je trouve que c'est intemporel du stop motion, ça vieillit bien. Je veux dire, c'est ce style-là que t'as, dans 40 ans, ça va être la même chose, puis ça va bien vieillir pareil. Fait que non, je trouve que quand c'est bien utilisé, stop motion, c'est bon.
Tu sais, il y a une scène où t'as le fétichiste qui se met à courir dans la ville, puis je pense qu'il arrive, mais puis tu vois les trucs se défaire avant qu'il arrive, tu sais, tu vois comme un rack de vélo, puis des vélos
qui
se défont, là, tu sais, c'est super basic comme effet spécial,
Ouais.
Mais je sais pas, à chaque fois que je vois ces scènes-là, je suis super impressionné, puis je suis comme, waouh, man, ils ont mis, c'est sûr qu'ils ont mis genre... une semaine à faire ça.
Mais c'est ça, Marc, c'est une fraction de seconde. Nous, quand on la regarde en tant qu'audience, ça prend comme une fraction de seconde, mais c'est un moment, je trouve, c'est tout, ça fait partie de l'esthétique du film, puis de la dynamique du film, puis tous ces moments-là de perte de temps. En tout cas, c'est très spécial comment la gestion du temps est reflétée à travers les différentes techniques de montage, je trouve. Là, c'était vraiment spécial comment c'était fait. Là,
notre conversation est en train de me faire monter ma note, moi, là pour vrai. Mais c'est fou, man, parce que moi, je veux pas, quand j'écoute un film, je base ma note sur l'expérience que je viens de vivre.
Ouais.
Mais suite à avoir une bonne conversation comme ça, on élabore, on creuse, puis tout, puis on se rend compte, man. Puis moi, j'ai tellement de respect pour les gens passionnés dans la vie que c'est sûr que je monte ma note un peu, là, j'arrive pas à beurrer,
Yeah!
un autre aspect technique, ben, une shot en particulier que j'ai vraiment aimé, quand l'homme à lunettes, là, le salarié, est en train de rêver un moment donné, il est comme debout dans la ville, si on veut, puis c'est comme s'il l'évitait, genre, il se promène un peu partout. J'ai vraiment trouvé que c'était bien tourné, ça. C'était vraiment une belle shot, man. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Dernière chose qui me fatigue depuis tantôt, je me dis, c'est-tu le moment d'en parler ou pas? Il y a un bout au début du film, le gars parle au téléphone avec sa blonde, puis il fait juste répéter la même chose, genre, mes chouchous, je sais pas trop, là.
Mouche-mouchi.
Ouais, mouche-mouchi, ouais, c'est ça. Puis là, il dit quelque chose, puis il dit, mouche-mouchi. C'est quoi ça?
Mouche-mouchi, c'est...
Ben, c'est bonjour, non?
Ouais.
Mais pourquoi il répète sans arrêt la même affaire? Il est-tu en train de virer fou?
Ouais, il est comme buggé, genre. je pourrais pas répondre à cette question-là, mais...
C'est une très bonne question, Alec, mais genre, mouche-mouchi, c'est un terme que je connais. C'est un des seuls mots que je connais au Japon. Fait que je trouvais ça spécial qu'il arrêtait pas de dire mouche-mouchi, mais la discussion, on dirait qu'elle évolue à partir de ce moment-là. Puis je pense que c'est un moment important aussi, peut-être, qui nous échappe, là, à ce moment-là. Nos audiences vont peut-être pouvoir nous aider, là, à ce moment-là, là, les auditeurs, là.
Ouais.
Ben écoute, c'était une question que j'avais, puis j'étais comme, c'est quoi ça, man? Ça faisait partie de mes incompréhensions. est-ce que vous avez d'autres choses à dire avant qu'on passe à nos points forts, nos points faibles du film?
En général, non. Là, juste, tu sais, on parlait d'influence, puis une autre chose au niveau du design que je trouvais intéressant, c'est que ça faisait penser au design de H.G. Giger qui a designé Alien, le xénomorphe de Alien. Beaucoup d'influences de même, mais tu sais, c'est à quel point que ce film-là, autant qu'il a pris des influences, puis qu'il a eu une influence, c'est ça que je trouve très intéressant, mais je voulais juste mentionner H.G. Giger en termes de design industriel, puis surtout que le film a été fait pour 100 000 piastres. C'est fou comment ils ont utilisé ça, là. Vraiment un tout thumbs up. Fait que dans le fond, ça va dans mon point négatif. On peut peut-être commencer là-dessus. Là. En fait, excuse-moi, ça, c'est un point positif, le design industriel. Là. Puis je me suis trompé, là, je dis négatif. Mais mettons que tu vas dans le négatif, c'est que pendant une grosse partie du film, j'avais aucune hostie idée de ce qui se passait. Je m'excuse, je sais pas si j'ai le droit de sacrer, mais j'avais aucune idée de ce qui se passait dans le film. Puis c'est sûr que c'est, à m'amener, ça devient demandant. Puis t'as l'impression des fois de te faire un peu... frapper sa tête avec tout le son puis tout ça, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, c'est une question de mood, dans quel mood que t'embarques, tu sais, quand tu vas voir ce film-là puis tout ça. Fait que tu sais, juste à penser au réalisateur qui fasse le montage, ça me, tu sais, j'avais des maux de tête à y penser. Fait que t'en as parlé, Alec, là, que le film, ça, on dirait que c'est un film de 2h30 qui est fait en 1h07. Je l'ai senti un peu, mais en même temps, je suis curieux de comme l'aspect de Marc. Il lui dit qu'il la regarde souvent, tout ça. Fait que je serais curieux de voir au fil du temps comment que le film va évoluer. Mais il y a tellement de choses intéressantes dans ce film-là que je peux juste le respecter. Mais j'ai aucune crise d'idée de ce qui se passait la moitié du temps. Je vais pas mentir. I have no idea. Aucune idée.
Okay, on va continuer ça avec tes points forts. Vas-y, énumère-moi ça.
Ben là, premièrement, c'est un film qui est unique. C'est un film qui, en termes de structure, comment que c'est filmé, autant que ça peut être fait pour un low budget, ça va avoir un impact sur toi. Tu peux pas être indifférent. Je pense pas que c'est un film que tu peux regarder puis d'avoir aucune émotion. Que ça soit la peur, que ça soit le rire, moi ça m'est arrivé, ou que ça soit le stress, c'est un film qui va te faire vivre des émotions, puis moi je pense que c'est ça le but du cinéma en général, mais plus que tu lis sur le film, puis plus que je pense que t'en parles, tu sais, t'es un peu en train de changer et tout, Alex, je pense, de score, plus que t'en parles, je pense que ça devient un film de plus en plus intéressant, fait que plus que tu creuses, plus que de quoi, c'est mieux que l'inverse, qu'un film que tu le vois, puis cinq minutes après, t'as complètement oublié ce que tu viens de regarder, fait que je pense que c'est aspects positifs, c'est ça, là. C'est un film qui va vivre encore dans 50 ans.
Très bien, très bien. Marc, est-ce que tu as quelque chose de négatif à dire sur ce film-là?
Hey, j'aurais vraiment de la misère à trouver quelque chose de négatif. Mais tu sais, ça rejoint un peu les points de Mathieu, là, mais tu sais, peut-être que la narration elle pourrait être un peu plus claire, mais en même temps, si ça l'avait été, je sais pas si mon expérience aurait été meilleure, tu sais. Fait que c'est un peu difficile à dire comme point négatif, tu sais. J'en aurais pas vraiment à part ça.
Alors, t'as le droit, c'est bien correct. Quelque part, tu l'as proposé, c'est parce que c'est un film que t'aimes. Puis vas-y donc avec tes points forts.
Ben, toute la conception, en fait, la passion qui a été mise là-dedans. Tu sais, c'est un projet qui est tenu à bout de bras. Moi, j'admire ça, mais tu sais, c'est aussi un truc qui est artistiquement brillant, tu sais. Puis je reprends le mot de Mathieu, mais assez unique, en fait. Puis qui définit comme... qui vient définir tout de suite. Bon, on voyait un peu ce style-là se refléter un peu dans ses courts-métrages précédents, puis on l'a senti aussi dans tout son cinéma après ça. Mais c'est ce qui vient définir un artiste, en fait. C'est quelqu'un qui a une vision unique du monde. Et voilà.
100%.
Excellent. 100% d'accord aussi. Ben écoute, je vais faire ça vite, là. Moi, mes points faibles, un peu comme je pense n'importe qui visionne ce film-là, c'est le manque de cohérence scénaristique, mais en même temps, c'est voulu, c'est un film expérimental, faut que tu sois dérouté, c'est mission accomplie, monsieur Tsukamoto, peu importe, a fait un super travail. Mon plus gros point négatif, je pense que c'est pendant ma première écoute, j'avais de la misère à savoir qui était qui. J'étais comme là, Chris, là, on dirait que c'est toute la même personne. Il y a comme tout le temps un nouveau personnage qui pop, mais ils se ressemblent tous. Fait que là, j'étais comme, ah, what the fuck. J'étais vraiment complètement perdu. Mais c'est vraiment minime. Ben, c'est sûr, aussi l'expérience, là, veut pas. Comme je l'ai mentionné tantôt, moi, quand je comprends pas quelque chose, mon cerveau, il est flatline. Je suis pas capable d'assimiler aucune information. Mais mis à part ça, suite à notre conversation, tout le travail qui a été mis là-dedans, là je parle de mes points forts, le montage, moi c'est ça, c'est mon gros point fort du film, montage sonore, montage visuel, tellement de cotes, ça a dû tellement être l'enfer, là. C'est limite psychédélique, là. C'est hallucinant comment il s'est donné ce gars-là. Le score très intéressant, score que j'entends pas généralement dans aucun autre film, musique industrielle, techno, metal, j'avais jamais vraiment entendu ça, point barre, là. Fait que ouais, ça j'ai vraiment aimé ça. La cinématographie en général, c'est bien filmé pour un film de 89 en noir et blanc en plus. Low budget, je pense qu'il y a des très belles shots, puis il s'est donné. On l'a dit tantôt, l'acting très théâtral, très convaincant, qui donne vraiment un arme à ce film-là. Le practical, on peut pas passer à côté. Practical body horror, très très bien fait, malgré quelques prothèses qui décollent à gauche à droite, mais ça on n'en parlera pas trop. Le stop motion, j'ai adoré. Puis, pour finir, ben, la complexité de la réalisation en général, là, comme on l'a tous dit, il peut bien avoir fait une dépression, le pauvre gars, là, parce que c'est ça, il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour là-dedans. Donc, en terminant, messieurs, sur 10, combien donneriez-vous à Tetsuo? Commençons avec toi, Mathieu.
7,5 sur 10. C'est quand même positif, mais comme tu sais, je pense que je perds mes 2,5, mes points, c'est au niveau de la structure puis à quel point de mon appréciation dessus la première fois, mais je vais juste mettre un méga astérix dessus. C'est sûrement un film que peut-être à travers le temps, si je revisite à m'amener, mettons que c'est un screening à minuit à Fantasia puis qu'on est une crowd puis tout le monde a vu le film puis tout le monde embarque, mon rating va peut-être monter à un 9. Là. Ce que je veux dire, c'est que ça dépend de ton expérience personnelle du film. Puis moi, à ce moment-là, c'est sûr qu'à un moment je trouvais que ça s'en venait un peu long. Je l'ai mis en guillemets parce que c'est un film qui est très fast-paced. C'est très rapide. Mais à un moment donné, c'est qu'une fois que tu comprends la sauce, ça devient un peu comme... Ça demande beaucoup à l'audience, je pense. C'est pas pour n'importe qui. Je peux pas recommander ça à ma voisine. Je peux pas recommander ça à mon frère. Je peux pas recommander ça... Il y a gros du monde que je recommanderais pas nécessairement à ce film-là. Ouais. Mais si c'est un film expérimental, si t'es prêt pour ça, vas-y. Puis, tu sais, avec une gang, des fois, un vendredi soir, ça peut être le fun. Mais il y a des défauts. Puis les défauts, ça fait que je donne un 7.5. Mais les 7.5, ça vient du fait que c'est un film très unique. C'est ça que je veux dire. J'ai adoré. Ouais.
Excellent take, mon gars. Excellent take. Marc, toi?
Ben, moi, ça sera pas crédible là, parce que vous savez que c'est un de mes films préférés. Là, fait que, moi, c'est... tu vois, sur Letterboxd, je le note 4.5. Là, fait que j'ai obligé de le dire 9 sur 10.
OK.
Ouais, juste pour... ben aussi pour toute l'influence que ce film-là a créé. Mmh. On ne crée pas une influence, mais bref...
On comprend ce que tu veux dire.
Bref, c'est ça. Ouais.
OK, excellent. Moi, écoute, les films expérimentaux, déjà là, je suis peut-être pas prêt encore dans ma cinéphilie à pouvoir donner des grosses notes. Malgré que je comprends tout l'effort qui a été mis dans le film, moi, je base mon film, ma note, sur l'expérience que j'ai. À mon premier visionnement, pas aimé du tout. Mon deuxième visionnement, avec des lectures, comme j'ai dit, j'ai fait « OK, je comprends, là, je comprends. » Puis c'est sûr que, évidemment, quand tu comprends quelque chose, c'est plus facile de s'attacher à, puis après ça, tu peux élaborer dans tes affaires. Mais écoutez, j'avais donné 5 sur 10, je vais monter ça à un 6 sur 10. Je vais donner la note de passage pour la simple et bonne raison que notre conversation était excellente. J'ai adoré tout de cet épisode-là. Je sais que pour l'auditeur moyen qui n'a pas écouté le film et qui s'est juste venu ici par curiosité, si tu t'es rendu ici, mon ami, bravo, t'es un solide. Parce que c'est clair que c'est juste du bruit dans tes oreilles. Faut clairement que tu aies vu ce film-là. Mais pour un film d'1h07, ça vaut la peine. Mais comme on l'a mentionné, t'as l'impression que ça dure 2h30 tellement c'est drainant, tellement tu cherches à comprendre ce qui se passe. Donc, je vais donner un 6 sur 10. Puis, par contre, je pense pas le revoir dans ma vie un jour. C'est fait, je l'ai vu deux fois.
C'est fait.
Je mets ça dans ma poche, on n'en parle plus. Puis si quelqu'un me demande à un moment donné, hey, as-tu un film weird à me faire écouter, haha, j'ai quelque chose pour toi.
Ouais. Ça peut être presque comme une punition, tu sais.
Ouais, c'est ça, exactement.
Tu vas être obligé de regarder ce film-là, ouais.
Ouais.
Mais au final, tu sais, comme quand j'impose un film, c'est tout le temps un peu. J'ai tout le temps un peu peur, tu sais, parce que je sais que c'est pas un film qui fait l'unanimité, mais je suis vraiment content. De la réception que vous y avez donnée. Puis, tu sais, même si c'était plus difficile pour toi, Alec, tu sais, je suis vraiment comme emballé par l'expérience que tu as eue, tu sais, puis que tu en as retiré au final. Là,
ben oui, puis moi aussi, puis je te remercie personnellement de m'avoir déstabilisé parce que là, je veux pas, moi, au podcast, je fais uniquement des films que j'aime, je fais souvent des films mainstream, puis tout.
Ouais.
Fait que de sortir, là, d'être en route un peu une fois de temps en temps, là, ça fait vraiment du bien. Puis non, moi, je regrette aucunement, tu sais, c'est une expérience. Le cinéma, c'est une expérience en soi. T'écoutes un film pour vivre de quoi, ben c'est ce que j'ai eu, là.
Ben ouais, mais mine de rien, là, ça fait 1h34 qu'on parle, fait qu'on a fait plus long que la durée du film. Ça veut dire que le film a fait quelque chose de bon. Si on a pu en parler pendant 1h30.
Exact.
Exactement. Fait que écoutez les boys, c'est là-dessus que l'épisode va se terminer. Une fois, Marc, Mathieu, merci infiniment de vous être prêté au jeu le temps d'un épisode. C'est toujours super apprécié.
Merci à toi pour l'invitation.
Ben ouais.
C'est toujours cool. Puis on s'en refait un bientôt.
N'importe quand. J'encourage les auditeurs à continuer de suivre votre excellent travail sur Horreur Québec via vos différents réseaux sociaux. Comme Mathieu a mentionné tantôt, l'entrevue qu'il a fait avec Caitlin Cronenberg devrait être disponible très bientôt, ou peut-être que c'est même déjà sorti au moment où vous écoutez le podcast présentement.
Ouais.
Quant à vous, les auditeurs, comme à l'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, j'espère que oui, j'espère que vous avez regardé le film surtout, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur la plateforme d'où vous écoutez le podcast. N'hésitez pas à venir me suivre soit sur Facebook ou Instagram via Horreur360 pour ne rien manquer de ce qui s'en vient prochainement. Et là, au prochain épisode, je vais recevoir mon bon ami Serge Lafrenière du podcast Terreur sur le pod, alors que nous allons couvrir l'excellent film français À l'intérieur, sorti en 2007. Donc, d'ici là, je vous dis merci infiniment d'écouter ce que je fais et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!